merci beaucoup, Pierre-Louis, de votre invitation à intervenir au sein de ce café que je trouve fort sympathique et que je découvre. Merci à vous de votre présence. Merci au professeur Fédou de m'accompagner pour cette intervention à deux voix. Donc, comme Pierre-Louis vous l'a dit, je travaille effectivement sur ce que l'on pourrait très généralement appeler la société juive de la fin de l'époque du Second Temple, hein, c'est-à-dire les derniers siècles avant l'avènement du christianisme et les premiers siècles de notre ère, c'est-à-dire Jésus jusqu'à peu près les pères gréco-latins, les pères de l'Église, c'est-à-dire les premiers siècles de l'ère chrétienne. Et je m'intéresse beaucoup aux relations entre le monde juif et le monde chrétien. Et donc, à la demande de Pierre-Louis, je vais essayer de vous présenter de façon très sommaire la façon dont Jésus est perçu par les textes juifs fondateurs du judaïsme rabbinique dans l'Antiquité, c'est-à-dire le Midrash, le Talmud. Hein, Jésus apparaît dans ses corpus, Jésus a intéressé les Juifs, hein, c'est la première des choses que je voudrais dire, et pour cause, Jésus a intéressé les rabbis du Talmud, alors que nous sommes dans une époque de troubles où le temple de Jérusalem vient d'être détruit, et qu'en lieu et place du temple se trouve un temple païen dédié à la triade capitoline, et les Romains ont envahi la terre d'Israël et Jérusalem. Nous sommes en 70, le temple n'est plus, malgré les vicissitudes de l'histoire. On s'intéresse aux premiers chrétiens et on s'intéresse à Jésus. Pourquoi ? Pour une raison très simple. C'est que les premiers chrétiens sont des juifs et qu'ils font partie intégrante de la société juive, et que Jésus de Nazareth, de son nom galiléen Yeshua, puisqu'il s'appelait Yehoshua, qui vient du verbe Léoshia en hébreu, qui veut dire sauver, tel qu'il apparaît d'ailleurs dans les textes canoniques, en hébreu galiléen, du fait que la diction ait été un peu différente et contractée, son prénom était Yeshua. Donc ce Yeshua apparaît dans les textes, et ce qui m'intéresse est donc de comprendre avec vous, chers amis, selon quelle modalité. Voilà. Mais je tiens tout d'abord à dire que, effectivement, ça paraît comme ça quelque chose d'assez banal et de connu, mais que je tiens à souligner, Jésus a intéressé le monde juif non seulement à cette époque de troubles qui est donc post-70, post-destruction du Second Temple, dans le Talmud, dans le Midrash, mais il a intéressé les juifs au fil de l'histoire. On trouve des mentions de Jésus et du christianisme, que ce soit au Moyen-Âge ou dans nos époques contemporaines. Je vous donne un seul exemple, qui est peut-être le plus significatif. Le grand philosophe juif du Moyen-Âge, du XIIe siècle, qui était Maïmonide, exactement à l'époque de Thomas d'Aquin, XIIe, XIIIe siècle, Maïmonide va écrire une encyclopédie talmudique, qui est extrêmement volumineuse, et dans un de ses textes liés au roi, à la royauté, Maïmonide va s'interroger sur le personnage de Jésus. Et il va dire, alors il faut avoir accès au texte non censuré pour trouver ces mentions, il va dire ni plus ni moins, Maïmonide, que Jésus a balisé, a préparé la voie du Messie. Vous savez que les Juifs attendent un Messie, les chrétiens attendent le retour de Jésus, et pour quelqu'un qui, d'ailleurs, a été vilipendé pour ses écrits, pas à cause de cela, mais à cause de ses écrits philosophiques, dire que Jésus est celui qui s'inscrit dans le dévoilement messianique du peuple juif, ce n'est pas peu de choses. Ce n'est pas peu de choses. Donc, c'est Maïmonide, nous sommes au XIIe siècle. Quand on scrute l'histoire juive, on se rend compte que ce soit à l'époque moderne ou à l'époque contemporaine, nous avons des gens qui vont s'intéresser à Jésus. Je prépare, par exemple, un ouvrage sur Joseph Klausner. Vous connaissez certainement Joseph Klausner, qui était ni plus ni moins que le grand-oncle d'Amos Oz. Je ne sais pas si vous avez lu Une histoire d'amour et de ténèbres. Bref, Klausner a vécu durant la première moitié du XXe siècle. Klausner a écrit le premier livre en hébreu moderne, premier livre scientifique d'un historien sur Jésus. Traduit en 1933, publié en français, Jésus de Nazareth, son temps, sa vie, sa doctrine. Ce sera un livre où Klausner va se montrer, j'ose pas dire dithyrambique, mais en tout cas élogieux à l'égard de Jésus, en disant que les évangiles sont le plus grand code moral de l'humanité, avant la tradition juive. Faut se rendre compte de ce courage, de cette témérité qui était celle de Klausner, d'ailleurs, des propos qu'on lui demandera de retirer avant la publication de son livre, et il ne voudra pas. Klausner ne voudra pas, n'admettra pas de se censurer lui-même, et on lui refusera une chaire d'ailleurs, une chaire d'enseignement, d'histoire, du monde juif, de l'époque du Second Temple, à l'université hébraïque de Jérusalem, à cette époque, à cause de ses propos sur Jésus. D'ailleurs, celui qui le traduira en anglais, Herbert Denby, qui était un prêtre anglican, sera rejeté par l'Église anglicane. On reprochera à Klausner d'avoir divinisé Jésus, on reprochera à Denby d'avoir humanisé Jésus. Donc, vous voyez, au début du XXe siècle, dans les années 1925-1930, les mentalités ne sont pas ce qu'elles sont devenues. Et grâce à Dieu, si j'ose dire, eh bien, on n'en est plus là. Voilà, en guise d'introduction. Alors, ce que j'aimerais vous montrer, c'est de nouveau comment Jésus est-il pensé par le monde juif de l'Antiquité. Et je vais donc vous lire un texte qui me paraît être un peu un texte locus classicus, un texte vraiment capital pour comprendre cette question, et qui va faire le lien entre deux problématiques qui m'occupent beaucoup, ce texte-ci, que sont d'une part la mention de Jésus dans le Talmud, d'autre part la séparation entre les juifs et les chrétiens dans l'Antiquité. Et je voudrais d'ores et déjà dire qu'à mon sens, mais je m'inscris là dans la trame de nombreux autres historiens, il n'y a pas, ou en tout cas avant la séparation entre les juifs et les chrétiens, il y a une séparation qui est propre en interne au monde juif. C'est-à-dire que les prémices, si vous voulez, de la séparation se font entre les rabbis du Talmud et les judéo-chrétiens. Par judéo-chrétien, j'entends, alors judéo-chrétien c'est un terme historiographique, hein, employé par les historiens. Si on avait demandé à quelqu'un au 1er siècle, un juif qui croyait que Jésus était le Messie, si on lui avait posé la question de savoir s'il était judéo-chrétien, il n'aurait certainement pas compris la question. Vous hein, voyez, c'est un terme historiographique, Jewish Christians, on l'emploie en anglais, vous voyez. Bon, en français on préfère parler de juif adepte du mouvement de Jésus, d'ailleurs je pense que c'est plus exact historiquement. Bref, donc, eh bien, nous sommes à une époque où le monde juif, après la catastrophe de 70, la destruction du Second Temple, l'exil, le fait que les Romains aient envahi Jérusalem, avec tout ce que ça suppose comme, eh bien, moments qui sont des moments effroyables pour le monde juif, esclavagisme, déportation, etc. Nous sommes à une époque où les rabbis du Talmud, eh bien, à la fin du 1er siècle, et là, je vous... décrit très brièvement le contexte historique, nous sommes donc à une époque qui est une époque qui se construit hein, sur une crise. La crise, c'est celle donc, de la guerre contre les Romains, qui se soldera par la destruction du Second Temple en 70 et la chute de Masada en 73. À cette époque, du fait de cette crise, les rabbis du Talmud vont vouloir eh bien, redynamiser la société juive et ils vont vouloir eh bien, la reconstituer. Et créer une forme, comme c'est souvent le cas en sociologie, Pierre-Louis, nous avons une crise, et après une crise, nous avons eh bien, un souci de ce qu'on pourrait appeler en français d'ostracisation, c'est-à-dire un repli identitaire, hein, comme on dit, c'est-à-dire on rejette tout ce qui n'est pas nous, voyez, parce qu'on veut créer quelque chose de beaucoup plus « orthodoxe », entre guillemets, au sens étymologique du terme. Et c'est ce que vont faire les rabbis du Talmud. Nous sommes à la fin du 1er siècle, et là on va considérer que les judéo-chrétiens deviennent persona non grata. Et ce qui est très intéressant, chers amis, c'est que jusqu'à la fin du 1er siècle, les rabbis du Talmud rencontrent des juifs qui croient en Jésus, et ça ne pose aucun problème à personne. Ça ne pose pas le moindre problème. Et je vais même vous dire davantage, et vous serez certainement étonnés, j'ai sous les yeux un texte que je vais vous lire, où j'ai eu recours aux manuscrits les plus anciens du Talmud pour pouvoir lire et traduire ce texte, il n'apparaît pas dans les éditions imprimées, eh bien, on a une rencontre ou des rencontres entre des rabbis du Talmud les plus éminents et des judéo-chrétiens qui enseignent la loi juive au nom de qui ? Au nom de Jésus de Nazareth. Incroyable, hein ? Au nom de Jésus de Nazareth. Et les rabbis du Talmud écoutent ces enseignements et ça trouve grâce à leurs yeux. Vous voyez ? Ils ne connaissent pas ces interprétations de la Torah, de la Bible, qui en fait sont nouvelles, sont suggestives, sont novatrices et trouvent grâce à leurs yeux. Vous voyez ? Donc il y a des choses extrêmement importantes qui se trament. Et ce que je veux vous dire en fait ici, chers amis, c'est que, comme le disait Walter Bauer dans un livre important traduit il y a quelques années en français, Orthodoxie et début du christianisme, une tradition religieuse commence par une hétérodoxie avant de devenir une orthodoxie. Autrement dit, il y a d'abord des petits groupes qui pensent différemment, d'un point de vue doctrinal ou du point de vue du rituel, qui sont très différents les uns des autres, ces petits groupes de croyants, et qui progressivement, comme c'est souvent le cas dans l'histoire, en fait, ceux qui vont eh bien, devenir les entre guillemets, les vainqueurs, ceux qui vont émerger de toute cette fragmentation, sont ceux qui vont créer une orthodoxie. Alors c'est le cas avec le christianisme qui va devenir paulinien. Hein. On sait que, par exemple, Paul est perçu comme un ennemi, hein, comme un schismatique dans les textes judéo-chrétiens du IIe siècle. Il suffit de lire les homélies et les reconnaissances pseudo-clémentines au début du IIe siècle pour s'en rendre compte. Pourtant, le christianisme va se forger au travers notamment du personnage de Paul. Or, Paul, si vous lisez par exemple les Actes des Apôtres au chapitre 21, Paul est réprimandé par Jacques, qui est le dirigeant de la grande église de Jérusalem, c'est-à-dire de l'église judéo-chrétienne, qui lui dit non, tu ne dois pas enseigner que la circoncision n'a plus lieu d'être. Hein. On se rappelle de ces textes, et là, Paul rectifie son enseignement. Autrement dit, nous avons différents adeptes de différentes sectes, de différentes mouvances, que ce soit dans le proto-christianisme, donc le christianisme des origines, ou que ce soit dans le judaïsme ancien. Et là, je fais une petite parenthèse. Prenons un instant une perspective sur ce qu'était la société juive à l'époque de Jésus. De quoi se composait-elle? Avait-on un judaïsme comme aujourd'hui, avec un grand rabbin de France et avec des gens qui se baladent en streimel et en paillesse et qui sont habillés en noir et qui représentent le judaïsme, ou en tout cas le judaïsme ultra-orthodoxe? La réponse est non, certainement pas. Hein. Nous avons une pluralité de mouvements juifs qui se détestent les uns les autres d'ailleurs, hein, et qui sont, remarquez, ça c'est pas très nouveau, et qui en fait sont des mouvements qui, chacun, et ça c'est très important chers amis, chacun possède l'interprétation qui lui paraît la seule, la vraie, l'unique du texte biblique, en condamnant évidemment l'interprétation de l'autre. Alors je vous donne un petit exemple que vous connaissez certainement, mais vraiment c'est pour, une remise, se rappeler de tout cela. Nous avons par exemple les pharisiens. Pharisiens, qui viennent du grec pharisaoi, qui viennent de l'hébreu lifroche, pirouche, ce sont des séparés. Ils sont appelés séparés par leurs adversaires, ce sont des gens qui se séparent du temple parce qu'ils considèrent que le temple est dirigé par des gens impies. Qui sont ces gens impies? Ce sont des grands prêtres à la solde de Rome. Et oui, quand Jésus, en Matthieu 21, renverse les tables des marchands du temple et des changeurs, pourquoi fait-il ça, Jésus? Contre qui en a-t-il? Ce juif galiléen qui idéalise le temple et les grands prêtres et qui voit un endroit mercantile où les gens changent de l'argent. Les Sadducéens. Les Sadducéens, exactement, Pierre-Louis. Les Sadducéens. Ce sont des Sadducéens. Eh oui. Pardon?
Je disais que Pierre-Louis allait travailler.
Ah oui, Pierre-Louis. Ça fait des semaines qu'on... Comment on dit que l'on potasse, on peut dire ça?
Ouais, peut-être.
Ensemble. Donc, les Sadducéens, oui, les fils de Tzadok, qui se disent descendre du roi David. Évidemment, c'est un non-sens, hein, le roi David a vécu 10 siècles avant. Donc, ces gens-là sont à la solde de Rome, et Jésus, effectivement, voit ces gens qui sont des gens attirés par le luxe, attirés par la corruption, qui sont souvent des gens qui descendent des anciens asmonéens, et qui sont des gens corrompus, et qui, font du temple un lieu, qui est loin d'être celui qu'envisage Jésus et beaucoup d'autres juifs de l'époque. Sadducéens, pharisiens, donc, se séparent de la direction du temple. Les pharisiens sont ceux qui, vont mettre en place ce qui va marquer le monde juif pour des générations, à savoir la loi orale, le Talmud. Ce sont eux qui seront les grands rédacteurs du Talmud. Et là, on assiste à une révolution dans le monde juif, chers amis. Pour la première fois dans l'histoire, on va considérer que la lettre de Dieu est inintelligible. La parole de Dieu n'est pas compréhensible, elle est inintelligible. On ne sait pas ce que Dieu veut dire dans la Torah, dans la Bible. Et donc il faut l'interprétation de l'homme dans toute sa subjectivité, dans toute sa faillibilité, pour comprendre la parole divine. Vous voyez, ça, c'est les pharisiens. Et ça, c'est exactement Jésus. Alors vous allez me dire, mais Jésus est contre les pharisiens. Rappelez-vous Matthieu 23. Mais Matthieu 23 est à lire non pas comme, à mon sens, hein, et puis là je me fonde notamment sur Marguerat pour citer un historien francophone, mais de nombreux autres, Matthieu 23, et par exemple c'est une grille de lecture très, très intéressante, n'est pas à lire comme les invectives de Jésus contre les pharisiens, puisque Jésus est pharisien lui-même, mais contre le propos de l'évangéliste Matthieu au sein de sa communauté dans les années 80-90, qui lui-même est juif, et qui lui-même s'adresse à des judéo-chrétiens, contre le fait que les judéo-chrétiens aient été exclus des synagogues. Alors je reprends tout ça parce que j'ai dit beaucoup de choses. Dans les années 80-90, et je reviendrai sur ce point, les rabbis qui veulent reformer la société juive, qui veulent la redynamiser, qui veulent la structurer et la normaliser, décident décide d'exclure d'autres juifs. Ces autres juifs, ce sont des adeptes de Jésus. Pourquoi décide-t-il de les exclure? C'est gravissime, ça. Pourquoi décide-t-il de les exclure? Est-ce parce qu'il croit en Jésus? Non. Le fait de croire en Jésus ne pose de problème à personne. Des messies au 1er siècle, il suffit de lire Flavius Joseph, hein, le grand chroniqueur juif du 1er siècle, vous allez percevoir combien c'était foison. Vous voyez, le messianisme est une... On parle de tension messianique en sociologie des religions. Il y avait beaucoup de gens qui se disaient être des messies. D'ailleurs, le mot de messie, qu'est-ce que ça veut dire en français? Oui, c'est ça. Qu'a donné Christos en grec, hein, Mashiach, ça veut dire ouin. Autrement dit, celui sur qui on a versé de l'huile d'onction sainte pour le couronner, un roi. Vous savez que dans la Bible, alors selon les éditions, c'est Isaïe 44 ou 45, Cyrus le Grand, qui était loin d'être juif, qui était un grand roi perse, est appelé Mashiach, Messie. Vous voyez? C'est ça, Mashiach. Ça veut dire ça. Christos, hein? Christos, Christ, Christ, c'est ça, c'est celui qui est ouin, le roi. C'est pas pour rien que sur le titre Toulouse, hein, quand Jésus est condamné, on a Rex ou Daïorum, roi des Juifs. Qu'est-ce que ça veut dire être roi à cette époque? Ce n'est pas pour rien que dans l'évangile selon Matthieu, Jésus est considéré comme descendant du roi David. Ce n'est pas pour rien qu'en Matthieu 15, quand la Syro-Cananéenne demande à Jésus de guérir sa fille possédée par un démon, eh bien, elle l'appelle, elle s'adresse à lui sous la forme de Ben David, fils de David. Qu'est-ce que ça veut dire à cette époque d'être fils de David? Pourquoi l'évangéliste Matthieu considère que la généalogie de Jésus passe par Jessé et par David? Qu'est-ce que ça veut dire du point de vue juif, mais qu'est-ce que ça veut dire également du point de vue romain? Un roi davidique qui réinstaurerait la souveraineté davidique du roi David en terre d'Israël, eh bien, serait nécessairement celui qui expulserait les Romains de la terre d'Israël. Vous savez, il n'en fallait pas plus pour être crucifié à cette époque. Parce que considéré comme agitateur de troubles, parce que considéré comme séditieux d'un point de vue politique. Et c'est exactement le Titulus. Et vraiment, cette idée de Ben David, de fils de David, je pourrais y revenir si vous voulez, mais elle est capitale pour comprendre le personnage de Jésus. Bref, je reviens à ce que je disais aux années 90. Ça va, je ne vais pas trop vite?
Non.
Bon, alors ça va. Excusez-moi. Nous sommes dans les années 90-100, à la fin du 1er siècle. Les rabbis se veulent être les dirigeants du Talmud. Alors, d'un point de vue scientifique, il est loin d'être évident que c'est été réellement les dirigeants de la société juive. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'ils se définissaient. Eh bien, les rabbis vont établir une... le mot doit être dit, il n'y en a pas d'autre, une malédiction qui sera introduite dans la prière. Vous avez déjà vu des gens juifs religieux prier, n'est-ce pas, qui font comme ça? Vous avez déjà vu des gens en prière. Bon. Qu'est-ce qu'ils disent dans cette prière des gens juifs religieux? Ils disent une prière qu'on appelle le Shmona Esrei. Qu'est-ce que le Shmona Esrei? C'est la prière des 18 bénédictions. Bon. Or, si vous comptez cette prière, le nombre de bénédictions, vous verrez qu'il n'y en a pas 18, il y en a 19. Pourquoi? Parce qu'une malédiction qui est en fait une malédiction, une bénédiction, excusez-moi, qui est en fait une malédiction, a été rajoutée à la fin du 1er siècle. Cette malédiction, c'est ce qu'on appelle en hébreu la birkat haminim, c'est-à-dire la malédiction contre les hérétiques. Qui sont les hérétiques de l'époque? Ce sont les judéo-chrétiens. Comment je sais qu'il s'agit de judéo-chrétiens? Parce qu'on a retrouvé dans la vieille synagogue du Caire, au 19e siècle, des mentions qui sont très très anciennes de cette prière, où le mot de Notzrim apparaît. Or, Notzrim, ce sont les chrétiens, les judéo-chrétiens à l'époque.
Qu'est-ce que ça veut dire, Notzrim?
Notzrim, Notzrim, ça vient du mot Netzer, qui veut dire rejeton, c'est le rejeton donc, du roi David, et qui fait référence à Isaïe chapitre 11, qui veut dire donc les descendants d'eux, descendants du roi David. Ça peut venir également de la forme verbale Lintzor, qui veut dire les gardiens de l'Alliance. Voilà, Notzrim. C'est en hébreu moderne, d'ailleurs, vous retrouvez ce terme-là pour qualifier les chrétiens aujourd'hui. Et vous retrouvez cette même forme en arabe également pour parler des chrétiens aujourd'hui. Hein? Nasaraya. Donc, j'en reviens à la fin du 1er siècle. Fin du 1er siècle. La Judée est en ruine. La Galilée en partie est dévastée. Et là, nous avons le souvenir de cet homme qui s'appelait Yeshua, Jésus. Nous avons des gens qui continuent à croire en lui, à croire qu'il est une messianité. Alors, reste à savoir quelle messianité était-il. Un prophète, un roi. Vous savez que les sectaires de Qumran, par exemple, les manuscrits de la mer morte, vous savez de quoi je parle? Les manuscrits de la mer morte du désert de Judée? Non, vous ne savez pas de quoi je parle. Il a été retrouvé en 1947, à partir de 1947, dans des jarres. En fait, je vous raconte l'histoire parce qu'elle est trop belle pour ne pas l'avoir racontée. Un jour, ça ressemble à une histoire biblique qui n'est pas authentique, mais en fait elle est authentique. Un berger fait paître ses brebis et il perd une brebis, voyez. Alors il se met à courir, c'est un bédouin hein, ce berger, il se met à courir pour retrouver cette brebis-là. Et nous sommes dans des grottes qui se trouvent dans le sud de l'État d'Israël, non loin de En Gedi, la mer morte. Voyez. Et là, il se met donc à chercher cette brebis et son pied heurte le sol. Et donc, il va presque à trébucher. Il se baisse. Et là, il commence comme ça à un peu à déterrer. Puis il voit une jarre. Une jarre. Et il découvre des manuscrits très anciens, en hébreu. Des manuscrits, vous voyez, en cuir. Vous savez quelle idée il a eu? Il voulait se faire de nouveau lacets pour ses chaussures. Des sandales. Heureusement, il ne les a pas faites. Alors ça arrive dans les bras d'un antiquaire qui s'appelle Kando en Jordanie, etc., etc. Enfin, je vous passe tout ça. La découverte la plus importante, archéologiquement parlant, hein, du XXe siècle, avec, nous l'oublions pas, les manuscrits de Nag Hammadi hein, en Égypte, qui sont les manuscrits coptes. Bon. Et donc, dans ces manuscrits-là, nous avons quoi? Eh bien, nous avons des juifs totalement dissidents, mais dissidents à quoi finalement? Parce que le judaïsme n'est pas monolithique à l'époque. Il y a différents groupes, sadducéens, pharisiens. Ces gens sont vraisemblablement des esséniens. Ce sont des gens qui ne se marient pas. Pourquoi ne se marient-ils pas? Mais parce qu'ils sont convaincus que l'eschatologie, la fin des temps, le dévoilement est là, à leur porte. Donc pourquoi se reproduire? Puisqu'ils vont être rédimés, délivrés par le divin. Donc on refuse la reproduction. Ce sont des gens qui vivent de façon sectaire, au sens sociologique du terme. Pour devenir essénien, il faut attendre de 1 à 3 ans, très à cheval sur les lois de pureté, d'impureté, etc., etc. Et qui vivent justement en ce lieu qui s'appelle Qumran. Ce sont des grottes, 14 grottes, dans lesquelles on a retrouvé eh bien, tous ces manuscrits. Voilà pour les manuscrits de la mer morte. Mais avec joie. Dans ces manuscrits, quelle est la croyance messianique? Eh bien, ces gens-là, qui sont des sectaires, des juifs, hein, croient en deux messies. Un messie sacerdotal, fils d'Aaron, vous savez, Aaron le pontife dans la Bible, et un messie, donc un messie Cohen, prêtre, et un messie qui est un messie roi, qui a priori descend de David. Deux messies. C'est exactement la croyance rabbinique au IIe siècle, après la révolte de Bar Korba. Va naître dans le judaïsme une bimessianité. Mais à l'époque dont je vous parle, celle de Jésus, le messianisme est un messianisme royal. On croit en un descendant de David. Et Matthieu, si vous lisez Matthieu, dont on sait que c'est un texte judéo-chrétien, puisqu'il suffit de lire les pères de l'Église, hein, si vous lisez les pères de l'Église, depuis Irénée de Lyon au IIe siècle jusqu'à Augustin au IVe, Ve, vous verrez que, eh bien, Matthieu est un publicain qui écrit pour des judéo-chrétiens. D'ailleurs, en grec, on lit dialecto-hébraïdi. Il écrit dans le langage des juifs. Alors, c'est quoi ce langage? C'est de l'hébreu? C'est de l'araméen, vraisemblablement, parce qu'à l'époque, la langue populaire était l'araméen, c'était la langue vernaculaire. Alors, j'en reviens eh bien, au rabbi qui n'aime pas les judéo-chrétiens. Pourquoi n'aime-t-il pas les judéo-chrétiens? En quoi les judéo-chrétiens posent-ils ce problème? Est-ce qu'ils posent problème parce qu'ils croient en Jésus? La réponse est non. Est-ce qu'ils posent problème parce qu'ils ont des pratiques différentes des autres juifs? La réponse est non. Est-ce qu'ils sont dissidents à une institution? Il n'y a pas d'institution juive à l'époque. D'orthodoxie, comme par exemple le grand rabbinat de France. Ça n'existe pas. En quoi pose-t-il problème? Il ben, faut bien que je fasse naître un peu de suspense. Sinon, ça va trop vite. Le problème de ce judéo-chrétien, chers amis, est un problème politique. Vous savez que dans l'Antiquité, il n'y a pas de séparation entre le politique en tant que système et le religieux, n'est-ce pas, dans l'Antiquité? Quand on va se prosterner devant l'effigie de l'empereur dans un temple païen, on reconnaît sa fidélité à l'empereur de Rome. C'est un acte religieux, mais également un acte politique. Et ça, c'est depuis le monde grec, hein, avec les offrandes aux dieux païens à la fin des Olympiades. Donc, on sait bien que les deux systèmes ne sont pas séparés. Bon, pourquoi je vous dis tout ça? Je vous dis tout ça parce que eh bien, les judéo-chrétiens vont poser un problème au rabbi, qui est un problème messianique. Je m'explique. Et ceci est peut-être le point saillant de mon propos de ce soir. Quand les Juifs se révoltent contre les Romains en 66, ils se révoltent contre les Romains, pas parce qu'ils pensent qu'ils vont gagner. Bah, les Romains au 1er siècle, l'Empire romain c'est colossal. Hein, je parle de l'Empire, hein, on est déjà après la République. Bon, eh bien, ils savent bien que, à moins d'espérer, et c'est le cas, une intervention divine qui permettra, de par cette révolte, eh bien, de faire naître le Messie qui viendra les délivrer des Romains, ils ne peuvent s'assurer d'une victoire, quelle qu'elle soit. Autrement dit, quand ils se révoltent en 66, les Juifs, pendant 4 ans, jusqu'en 70, jusqu'à la destruction du Second Temple de Jérusalem, cette révolte est une révolte messianique. Tous les textes de l'époque nous montrent en fait qu'ils sont convaincus qu'ainsi, ils pourront expulser les Romains impurs de la terre d'Israël, de la Judée, enfin la Palestine romaine de l'époque, et qu'ils pourront ainsi, eh bien, restaurer la souveraineté davidique du roi David et que le Messie sera un roi décidé par le divin. Or, ça n'aboutit pas. Cette révolte est étouffée dans le sang, avec des conséquences absolument terribles. En termes de vie humaine, les femmes sont, violées par les soldats romains. Les enfants sont vendus sur les marchés de Rome. D'ailleurs, c'est à cette époque, chers amis, que l'identité juive diffère. Avant cela, l'identité juive passait par le père. Après cette époque-là, l'identité juive, on va considérer qu'elle passe par la mère. Aujourd'hui, tous les rabbins vous diront que « est juif, c'est lui dont la mère est juive ». Mais est-ce que ça a toujours été le cas, ça, dans l'histoire? Non. Avant, c'était le père. Comme dans l'islam. Pourquoi ça a changé? Ben justement, parce qu'on veut repeupler la Judée et que la plupart des femmes juives ont été violées et que les pères sont des Romains. Eh oui, c'est une donnée historique. Et comme je dis souvent à mes étudiants, c'est l'histoire qui crée les conceptions religieuses, pas l'inverse. Une conception religieuse ne tombe pas du ciel, si vous me passez l'expression, hein, bien sûr. Elle est le fruit. C'est bien parce que vous riez, c'est que ma blague en fait a été comprise. Une conception religieuse, notamment une conception messianique, passe par les circonstances de l'histoire de façon récurrente. Que ce soit le sabbatéisme au XVIIe siècle, que ce soit aujourd'hui le chassidisme et l'ultra-orthodoxie juive, etc., etc., c'est toujours les conséquences de l'histoire. Bref, j'en reviens à cette époque. Les juifs ont été échaudés, voire traumatisés par les conceptions messianiques. Elles ont engendré de la dérélection, elles ont engendré de la peine, de la souffrance, une révolte qui a été avortée dans le sang. Ainsi, si vous lisez les textes les plus anciens du Talmud, de la Mishnah, 1er, 2e siècle, vous verrez qu'il n'y a absolument rien sur le Messie. Est-ce que ça veut dire que les Juifs ne croient pas dans la venue du Messie? Ben, ça veut dire qu'ils s'en méfient. Alors c'est vrai qu'à la fin du chapitre 9, si vous connaissez un petit peu le texte du traité de Sota, on a des considérations messianiques, mais on sait que c'est un addendum. Ça a été greffé bien plus tard. Rien sur le Messie. On va neutraliser l'idée messianique. Neutraliser l'idée... Pourquoi? Parce qu'elle est porteuse de belligérance, de souffrance. Or, à cette époque, quand on lit Matthieu 3, quand Jésus est baptisé dans l'eau par Jean le Baptiste, les portes des cieux s'ouvrent, l'esprit de la colombe plane sur lui, et on a, eh bien, ni plus ni moins que la réinstauration de la prophétie et du messianisme. Jésus est considéré d'abord par les judéo-chrétiens comme un messie. Or, ces judéo-chrétiens, eh bien, sont considérés comme des dissidents, comme des gens déviants, précisément à cause de leur conception messianique. Conceptions messianiques, qui sont des conceptions messianiques connotées avec une charge politique très très forte. Et ces judéo-chrétiens vont se retrouver finalement dans une situation où ils seront rejetés par les rabbis, à la fin du 1er siècle, et ils seront rejetés eh bien, par les grands auteurs chrétiens dès le 2e, 3e siècle. Autrement dit, les judéo-chrétiens, ce sera le problème de la double allégeance. Et je vous lirai tout à l'heure un texte sur les judéo-chrétiens, un texte des pères de l'Église qui montre bien combien ces gens-là se sont retrouvés finalement eh bien, en deçà et exclus de deux traditions religieuses qui se forment à cette époque. Quelles sont ces deux traditions religieuses qui se forment à cette époque? Eh bien, c'est d'une part le judaïsme rabbinique et d'autre part le christianisme orthodoxe. Mais rien n'est encore fait au 1er siècle. À l'époque où Jésus de Nazareth eh bien, traverse les montagnes de la Galilée et se rend quelquefois à Jérusalem, aucune de ces traditions n'existe. On a des Esséniens à Qumran, des Sadducéens dans le temple, des pharisiens, alors on a des pharisiens qui sont des pharisiens qui expliquent la loi et qui vont faire naître le judaïsme rabbinique, qui sont des intellectuels, ils sont à Jérusalem. On a des pharisiens de Galilée, dont fait partie Jésus. Les interprétations que donne Jésus de la loi sont des interprétations dont on retrouve la même méthodologie. le même cheminement intellectuel, la même exégèse dans les textes pharisiens de l'époque et plus tard dans les textes talmudiques. Alors, les judéo-chrétiens, je dis, posent problème. Et là, j'en reviens à la fin du 1er siècle. On va chercher à les exclure. Le texte que j'ai sous les yeux, que je vais vous paraphraser, je ne vais pas le lire in extenso, mais je vais vous le paraphraser, est très intéressant. Ce texte apparaît dans le Talmud au 2e siècle, donc c'est très ancien. On a un rabbi, qui est un rabbi éminemment connu, qui apparaît dans le Talmud toutes les deux lignes, qui s'appelle, eh bien, Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, dans ce texte-ci, quand j'ai découvert ce texte, j'ai passé plusieurs nuits sans sommeil, j'étais émerveillé. Ce texte-là nous dit que Rabbi Eliezer rencontre un judéo-chrétien qui s'appelle Jacob. D'ailleurs, tous les judéo-chrétiens dans le Talmud s'appellent Jacob. Pourquoi ? Oui, c'est vrai. Tous les judéo-chrétiens s'appellent Jacob. Vous savez pourquoi ? Ben oui. Qui était le dirigeant de l'église judéo-chrétienne de Jérusalem ? Comment s'appelait-il ? Oui, Jacques. Jacob. Hein ? Jacob. Hein ? Jacques. Vous le trouvez aussi en grec, d'ailleurs, chez les pères. Bref, donc Jacques. Et ce Jacob, eh bien, enseigne Rabbi Eliezer, il lui enseigne une halakha, c'est-à-dire une explication de la Torah au nom de Jésus, au nom de Yeshua. Et Rabbi Eliezer, je n'y ai pas pensé, belle explication. Ensuite, Rabbi Eliezer, bien plus tard, alors qu'il a des acquaintances avec des judéo-chrétiens, une fois j'ai mis en parallèle l'évangile selon Matthieu et les enseignements de Rabbi Eliezer, nous sommes à la même époque, on trouve exactement les mêmes enseignements. Je ne sais pas si vous me suivez là. L'évangile selon Matthieu et Rabbi Eliezer ben Hurkanes, qui est un des rabbis qui apparaît, mais qui est un des rabbis les plus importants, les plus cruciaux de cette littérature, mêmes enseignements. Ce qui prouve qu'on est encore au sein du judaïsme à cette époque, vous voyez, de la société juive fragmentée. D'ailleurs, dans un autre texte, et là je fais une petite digression, on se demande dans le Talmud si les fragments d'évangile doivent être sauvés d'un incendie un jour de Shabbat. Alors qu'est-ce que ça veut dire, cette question qui est une question légaliste de la loi ? Les évangiles doivent-ils être sauvés ou pas ? Ça veut dire que les évangiles, les premiers fragments d'évangiles, hein, notamment en hébreu ou en araméen, puisqu'on sait que l'évangile selon Matthieu a été initialement écrit en hébreu ou en araméen, se trouvaient dans les synagogues. Et pire que ça, on ne savait pas s'ils étaient saints ou pas. C'est-à-dire qu'on avait des juifs qui savaient lire ou pas lire, mais en tout cas certains étaient lettrés, qui ouvre un texte en araméen où on parle d'un certain Yeshua. Tiens, ça ressemble au prophète de la Bible. Donc on doit le sauver si un incendie se déclare. Autrement dit, est-ce que c'est sacré ou est-ce que ça n'est pas sacré? Dans le Talmud, ça apparaît dans le 13e chapitre de la Tosefta Shabbat. Vous voyez, l'histoire nous parle. Je parle des évangiles, là. Bien entendu, avant qu'ils deviennent canoniques, puisqu'ils vont devenir canoniques bien plus tard. Le premier a parlé de 4 évangiles, les évangiles tétramorphes, c'est bien sûr Irénée de Lyon. Evan Guillaume, mais dans les années 160-170. Hein, donc c'est plus tard. Bref, donc j'en reviens à ce texte-ci. Rabbi Eliezer rencontre un judéo-chrétien et bénéficie d'un enseignement de la loi énoncée au nom de Jésus. Et ceci trouve grâce à ses yeux. Il continue ses rencontres avec des judéo-chrétiens et se porte le mieux du monde. Hein. Ça ne pose problème à personne. Rabbi Jésus est celui dont on va livrer des enseignements en son nom, délivré par des judéo-chrétiens. Bon. Ensuite, va arriver un double problème. Nous sommes à la fin du 1er siècle, début du 2. Problème dans le monde juif, problème dans le monde romain. Deux problèmes. Alors je vais très vite en besogne, hein, je vous dis la chose. D'une part, les rabbis vont considérer que les judéo-chrétiens sont des séditieux. Ce sont des gens dangereux. Des gens qui peuvent réinstaurer un climat de guerre, de belligérance. Ce sont des gens qui croient en un Messie. Or, croire dans le Messie à cette époque, c'est dangereux. Un des grands adages du Talmud, exactement de cette époque, dit la chose suivante, au nom de Rabban Yochanan ben Zakkai, qui est également un rabbi du 1er siècle, si tu plantes un caroubier, et qu'on vient t'annoncer la venue du Messie, eh bien, continue à planter ton caroubier. Une fois qu'il aura poussé, tu iras accueillir le Messie. Autrement dit, vous voyez, quand vous aurez 5 minutes, quoi. Vous voyez, donc, que se passe-t-il ici ? Aujourd'hui, on a l'impression que le Messie fait partie intégrante de toutes les conceptions juives, mais ça n'a jamais été le cas dans l'histoire, en tout cas pas sous cette forme. Bref, donc, ce Rabbi Eliezer rencontre un judéo-chrétien, et quelques années après, eh bien, le président du Sanhédrin, qui s'appelle Gamaliel II, alors ce n'est pas le Gamaliel des Actes des Apôtres, hein, celui qui a enseigné à Paul, au chapitre 5, 22 et 26, c'est son petit-fils, le deuxième. Donc lui, eh bien, va décréter qu'il faut, eh bien, exclure les judéo-chrétiens de la synagogue. Bon, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Il faut les exclure. Alors c'est très intéressant, le Talmud nous raconte que celui qui a rédigé la malédiction, un an après, est sur l'estrade, doit la lire pour que les gens puissent dire Amen, et il ne s'en souvient plus. Et le Talmud pose la question de savoir, mais ne s'en souvient-il plus? Ou feint-il de ne pas s'en souvenir? Autrement dit, peut-être ne veut-il pas maudire ce en quoi il croit. Peut-être ne veut-il pas maudire ses frères. Peut-être lui-même est devenu judéo-chrétien. Autrement dit, nous avons un disciple de Gamaliel II au sein du Sanhédrin, le grand tribunal rabbinique de l'époque, qui est soupçonné lui-même d'être devenu judéo-chrétien. Et nous sommes à la fin du 1er siècle. Autrement dit, il ne veut plus, eh bien, maudire ses co-religionnaires, les gens qui croient comme lui en Jésus. Pour vous montrer combien le christianisme, et c'est peu dit ça, mais il faut le savoir, combien le proto-christianisme, hein, je ne parle pas encore du christianisme de l'époque des pères de l'Église, hein, mais je parle vraiment du premier christianisme, combien le premier christianisme a influencé les Juifs et a influencé les Romains. Donc d'une part, les judéo-chrétiens se retrouvent eh bien, expulsés des synagogues, alors que eux, pour eux, ils sont juifs. Et d'autre part, ils se retrouvent persécutés par les Romains. Pourquoi persécutés par les Romains? Ben, si vous lisez Eusèbe de Césarée au IVe siècle, mais surtout des textes plus anciens, vous verrez que dès le début du IIe siècle, fin du Ier, on a persécuté des judéo-chrétiens, des gens qui descendent du roi David. On a par exemple un dignitaire romain qui s'appelle Pline le Jeune, qui a écrit à l'empereur Trajan, début du IIe siècle, et qui lui dit, voilà, j'ai des gens qui croient en Jésus, est-ce que je dois tous les mettre à mort? Et l'empereur lui dit, mais non, non, il y en a beaucoup là, il ne faut pas tous les mettre à mort. S'ils abjurent, même si c'est de façade, alors ne les mets pas à mort, mais s'ils continuent eh bien, à vivre dans cette superstition, dans cette religion que nous ne connaissons pas, qui n'est pas une religion ancienne, une religion qui n'est pas reconnue par Rome, qui n'est pas religio licita, qui n'est pas religion licite, eh bien mets-les à mort. Autrement dit, nous sommes à une époque là où les judéo-chrétiens sont persécutés d'une part par les Romains et rejetés par les Juifs. C'est ça le drame en fait. Et ma thèse est de dire, mais c'est pas moi, hein, beaucoup l'ont dit avant moi, que les prémices de la séparation, chers amis, c'est la deuxième thèse que j'aimerais vous présenter, c'est la séparation entre les rabbis qui vont forger et édifier le Talmud et les judéo-chrétiens, autrement des Juifs avec d'autres Juifs. Dans un deuxième temps, ce sera les pagano-chrétiens, ceux qui descendent du paganisme, qui vont eux aussi rejeter les judéo-chrétiens. Pourquoi? Pour d'autres motifs, pas à cause du messianisme, mais à cause des observances. Et oui, les judéo-chrétiens sont ceux qui continuent à se perdre dans les observances du judaïsme. Et ça, ça devient intolérable, en tout cas après Justin de Néapolis, après les années 150-160. On les tolère encore jusqu'à Justin, jusque dans les années 150-160, malgré les observances, mais après ça deviendra plus possible. Comment Jésus est-il mentionné dans le Talmud? Mais comme un rabbi. Comme un rabbi. On étudie ses propos. Alors ses propos ne se retrouvent pas toujours dans les évangiles. J'ai comparé plusieurs fois ce qui est dit en son nom dans le Talmud et si vraiment ça apparaît dans les évangiles. Que ce soit les évangiles canoniques ou les évangiles apocryphes. Ça n'apparaît pas. Ou alors ce sont des propos qui sont paraphrasés, transformés, etc. Toujours est-il que c'est un rabbi. Il apparaît comme un rabbi. Comme quelqu'un qui doit divulguer un enseignement et il convient de l'écouter. Et ce n'est jamais à cause de son enseignement eh bien, que les chrétiens sont rejetés, ou les judéo-chrétiens plutôt, mais à cause de ce que je vous ai expliqué, le problème politique et messianique que cela entraîne. Alors, je m'achemine vers la fin du propos, ou j'ai encore quelques minutes. Les judéo-chrétiens, finalement, vous voyez, eh bien, poseront problème dans un premier temps aux juifs, du fait de leur croyance en ce rabbi Jésus, et poseront problème eh bien, aux pères de l'Église. J'ai sous les yeux certains textes, voyez, qui sont à ce niveau-là significatifs. Regardez ce que dit Épiphane de Salamine. Épiphane de Salamine, c'est quelqu'un qui a vécu au IVe siècle à Chypre, qui était un chrétien et qui eh bien, faisait des listes avec les hérétiques. On appelle ça un hérésiologue en français. Voyez. Comment reconnaître un hérétique? Et lui nous dit dans son Panarion au chapitre 53, « Les judéo-chrétiens ne sont ni juifs, ni chrétiens, ni païens, mais quelque chose d'intermédiaire. Au fond, ils ne sont rien. » Problème de la double allégeance. Allez. Jérôme nous dira dans une lettre à Augustin d'Hippone, IVe siècle. Oui, c'est vrai, ils croient au Christ comme nous, fils de Dieu, né de la Vierge Marie, je lis mot à mot, et ils disent que c'est lui qui, sous Ponce Pilate, a souffert et ressuscité, ces judéo-chrétiens-là. En lui, nous aussi, nous croyons qu'ils sommes des chrétiens authentiques. Mais tandis qu'ils veulent en même temps être juifs et chrétiens, ils ne sont ni juifs, ni chrétiens. Là, vous voyez, on est déjà non plus dans l'hétérodoxie qui devient orthodoxie, la thèse de Bauer, mais on est là vraiment dans deux traditions qui se sont déjà forgées, qui se sont édifiées et qui vont devenir deux traditions ennemies l'une de l'autre, bien malheureusement. Mais je voudrais dire deux choses. La première, c'est que, comme l'a dit Boyarine, et je crois que c'est le seul propos avec lequel je suis d'accord avec lui, comme l'a dit Boyarine, les deux traditions, le judaïsme rabbinique et le proto-christianisme, évoluent ensemble, en fait. Ils se construisent, ils s'édifient ensemble, et l'un par rapport à l'autre. C'est-à-dire que souvent, on s'aperçoit que les polémiques ou les facteurs d'emprunt se font de l'un à l'autre, et pas toujours dans le sens que l'on croit. On a l'habitude de dire que les chrétiens viennent du judaïsme, et ainsi, eh bien, ils ont été influencés par le judaïsme de la fin de l'époque du Second Temple. Mais pas toujours. On a aussi des facteurs d'influence du monde chrétien envers le monde juif. Je vous donne un exemple. Vous savez que les juifs ont l'habitude, le Shabbat, de rompre le pain. De rompre le pain pour le donner à chacun. Vous savez ça? Bon. Eh bien, où ça apparaît, ça? Ça n'apparaît pas dans le Talmud avant le 5e, 6e siècle. Par contre, ça apparaît dans les actes. Eh oui, ça apparaît dans les actes des apôtres. D'ailleurs, dans les actes des apôtres, au tout début, que demande-t-on à Jésus? Bon, c'est tardif, les actes des apôtres, hein, c'est les années 80-90, mais que demande-t-on à Jésus, vous vous rappelez? Es-tu celui qui va rétablir le royaume d'Israël? Eh oui, autrement dit, es-tu le Messie, un Messie politique? C'est précisément ce qui posait problème aux Juifs de l'époque. D'ailleurs, le problème du messianisme est un problème très délicat, vous savez, j'en conclus par une petite histoire drôle, enfin je ne sais pas si elle est drôle, en tout cas moi elle me fait beaucoup rire, qui est l'histoire suivante. Il s'agit d'un juif qui vit dans le dénuement au 19e siècle, dans un shtetl, vous savez, une bourgade d'Europe de l'Est. Alors il est tellement pauvre, il a 12 enfants cet homme-là, il va voir son rebbe, donc le rabbi, et lui dit, voilà rabbi, aide-moi, trouve-moi quelque chose, il faut absolument que je puisse subvenir à mes besoins, je ne m'en sors pas, j'ai 12 enfants à nourrir. Et le rabbi lui dit, mais nous sommes tous pauvres ici. Nous sommes en Europe de l'Est, on n'a rien, qu'est-ce que je peux t'aider, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Bon, il rentre chez lui un peu penaud. Et puis un mois après, là vraiment c'est le dénuement total, il n'en peut plus, il va voir son rabbi, trouve-moi quelque chose, je t'en prie, vraiment, il faut que je croie, que je donne au moins quelque chose à mes enfants, etc. Et le rabbi lui dit, écoute, laisse-moi réfléchir. Et puis voilà qu'il réfléchit, il rappelle ce monsieur-là, il lui dit, écoute, voilà, j'ai un travail pour toi. Tu vas prendre un tabouret, tu vas t'asseoir à l'entrée du village, et tu vas attendre le Messie. Il dit, ah bon? Il dit, oui, tu vas attendre le Messie. Et alors? Quand le Messie va venir, tu vas, toi, nous l'annoncer. C'est ton travail. Tu seras annonciateur de la venue du Messie. Il dit, bon, d'accord. Bah, il prend son tabouret, il s'assoit, puis il attend. Puis un jour, il y a un ami à lui qui passe. Il fait, mais qu'est-ce que tu fais là? Il fait, ben, je travaille. Il fait, comment ça, tu travailles? Mais c'est quoi ton travail? Eh ben, j'attends le Messie. Il fait, ah bon? Il fait, mais je ne comprends pas, c'est un bon travail? L'autre lui dit, écoute, c'est mal payé, mais j'ai la sécurité de l'emploi. Avant qu'il vienne, vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, autrement dit, j'ai essayé de vous brosser, mais vraiment un très grand trait, pas plus grand trait que ça, je suppose, hein, ce qu'ont ces problématiques qui m'occupent, que sont des problématiques saillantes, hein, pour comprendre toutes ces choses-là bien compliquées. J'espère avoir été suffisamment clair et ne pas avoir été trop rapide. Je vous remercie et je serai heureux d'échanger avec vous. Merci beaucoup. Vous qui pouvez applaudir avec une telle attention et une telle concentration. Merci beaucoup. Oui, il y a des questions, Pierre-Louis.
Bah, peut-être, Michel Chem, si vous pouvez rebondir en quelques instants. C'est pas,
je prends la question. Bon, merci beaucoup d'avoir merci de m'avoir proposé de venir et merci surtout pour votre intervention. Je trouve ça absolument passionnant. Alors, ce qui m'a été proposé, c'est quand même un exercice un petit peu redoutable. Hein. C'était d'improviser quelques réactions. Donc, je vais le faire assez rapidement pour permettre à votre tour de soulever, de proposer des réactions, de soulever des questions. Merci beaucoup, parce que c'est vraiment passionnant. Moi, j'ai pris beaucoup de notes. Ça m'a vraiment intéressé sur quantité de points. Et j'ai envie de revenir sur trois ou quatre points plus spécifiques, puis je serais content d'entendre votre réaction par rapport à ces points. Premier point, alors d'abord je trouve, comme prologue, moi je retiens beaucoup ce que vous avez dit tout à fait au début, quoi. Jésus a intéressé les Juifs, je crois que c'est très important d'entendre cela, et je crois que, alors c'est vrai dans l'époque ancienne, mais aussi à l'époque contemporaine, quand vous l'avez très bien montré dans l'un de vos livres, enfin, le nombre de Juifs qui ont parlé de Jésus, qui se sont intéressés à Jésus tout au long du XXe siècle, du XXIe siècle, c'est quelque chose d'assez passionnant à étudier. Alors peut-être le premier point sur lequel je voudrais revenir, c'est vous avez souligné donc ce qui est si fortement mis en avant par les historiens aujourd'hui, la judaïté de Jésus. Alors je voudrais dire que du point de vue de l'exégèse chrétienne, du point de vue de la théologie chrétienne, c'est un point tout à fait essentiel. Il y a un exégète, un prêtre nord-américain qui s'appelle John Mayer, qui a écrit une somme monumentale, malheureusement inachevée, il y a pas 5 gros volumes de 500 pages chacun, hein, qui sont traduits en français, un certain juif, enfin, Marginal Jew, exactement. Dans ces différents volumes, surtout dans le volume 4, si j'ai bonne mémoire, il insiste énormément sur la judaïté de Jésus, qui était quand même souvent occultée dans la manière dont le christianisme a parlé de Jésus dans les siècles passés. Alors ça se manifeste de quantité de manières, par exemple l'art extraordinaire avec lequel Jésus interprète la loi, la Torah, enfin, il donne son exemple, les controverses avec les Sadducéens, etc. Donc c'est un point que je voulais relever, avec peut-être, alors je grève sur ce point une question, Jésus est un juif de Galilée. Alors, Galilée, c'est un milieu très interculturel, autant que je sache, à l'époque de Jésus. Meyer va jusqu'à dire que peut-être on peut exclure que Jésus ait connu au moins des rudiments de grec, je ne sais pas dans quelle mesure c'est fondé ou pas, mais voilà, peut-être que si vous avez des précisions à donner sur cette région particulière, la Galilée, et en quoi cela peut contribuer à éclairer la personne de Jésus, ça c'était mon premier point. En deuxième point, vous avez évoqué au fond le changement de problématique depuis Bauer surtout, puis c'était repris par Alain Le Bouluec et d'autres. Changement problématique autour des notions d'orthodoxie et d'hétérodoxie. Ce que je voudrais dire, c'est que vraiment, ce que vous avez dit du point de vue du judaïsme, on le dit également du point de vue du christianisme. Alain Le Bouluec en particulier a très très bien montré cela. Il ne faut pas du tout considérer qu'il y aurait eu au départ une orthodoxie entièrement constituée, qui se serait imposée à toutes les communautés chrétiennes, et ensuite des courants hétérodoxes qui se seraient situés par rapport à cette orthodoxie, mais en réalité, on est plutôt en présence dans les toutes premières décennies d'une mosaïque, et encore au deuxième siècle, d'une mosaïque de communautés. Et c'est progressivement que, justement, une église prend le devant, en quelque sorte. Alors, il y a des jalons, on peut suivre ça à la trace, des auteurs comme Irénée en particulier et d'autres. Il y a une orthodoxie qui se constitue progressivement. Alors, ce qui me conduit à un troisième point, et qui ferait alors l'objet d'une question, justement, puisque vous avez évoqué vers la fin Daniel Boyarin. Boyarin, autant que je me souvienne, soutient la thèse selon laquelle le christianisme et le judaïsme se seraient vraiment constitués comme des entités véritables, des entités religieuses, proprement dites, au sens strict, de façon relativement tardive. Je crois qu'il parle du IVe siècle.
Absolument.
Alors, une question là-dessus, est-ce que... Je serais porté à penser que la datation est un peu tardive, que ça commence plus tôt. C'est sans doute quelque chose de progressif, mais si vous avez un avis sur le sujet, ça m'intéresserait. Et puis alors, peut-être quatrième et dernier point que je voudrais évoquer. Non, encore deux. Il y aura un quatrième et un cinquième point. Quatrième point, c'est moi je travaille beaucoup sur les pères de l'Église, hein, les auteurs chrétiens des premiers siècles. Et il y a deux choses qui me frappent beaucoup. Tout d'abord, dans le courant du IIe siècle, un auteur que vous avez cité, Justin, qui était originaire de Flavianéapolis, aujourd'hui Naplouse, a écrit un dialogue, c'est un dialogue avec le juif Tryphon. Voilà. Ce n'est pas forcément un dialogue qui a eu lieu tel quel, pour une réécriture, mais il y a probablement quand même en amont de cela des expériences de rencontres entre des chrétiens et des juifs. Et ce qui me frappe beaucoup, c'est à la fois c'est un dialogue sans concession, Et en même temps, il n'y a pas, si je puis dire, de happy end, ni dans un sens, ni dans l'autre. Il n'est pas dit à la fin que l'un se convertit à la religion de l'autre ou réciproquement. C'est quelque chose de très étonnant. On n'est pas dans la situation des futurs adversus iudeus, qu'on trouvera déjà au IIIe siècle avec Tertullien, et puis a fortiori après le tournant constantinien, au IVe, Ve siècle. Donc c'est un témoin intéressant, au fond, d'une phase des relations entre juifs et chrétiens au IIe siècle. Donc enfin, un dialogue sans concession, enfin, assez impitoyable sur certains, sur un certain nombre de points, mais néanmoins, ça se présente vraiment comme un dialogue jusqu'au bout. À la fin, chacun repart de son côté, sans que l'un ait imposé sa doctrine à l'autre, en quelque sorte. Et puis alors surtout, l'autre nom que je voudrais évoquer, c'est celui d'Origène. Donc Origène, c'est plus tardif, c'est tout à fait la fin du IIe siècle et surtout la première moitié du IIIe siècle. Origène, qui avait passé la première moitié de sa vie à Alexandrie, en Égypte, passe la seconde partie de sa vie à Césarée Palestine, Césarée Maritime, et donc au nord de Tel Aviv actuellement. Hein, dans cette ville de Césarée, enfin, nous savons d'abord qu'il a appris lui-même l'hébreu, et il s'est lancé dans une opération extraordinaire qu'on pourrait qualifier comme une opération de critique textuelle, en transcrivant, avec l'aide d'un de collaborateurs, le texte de la version hébraïque de la Bible, une translittération en caractère grec, des versions, des traductions grecques des Écritures. Donc c'est un travail de façon à pouvoir comparer différentes versions de l'Écriture. Et dans un certain nombre de passages de son œuvre, il nous dit explicitement que sur tel ou tel point, il a entendu un juif qui disait ceci ou cela. Donc il était simplement en contact avec des rabbins ou des exégètes juifs dans la ville de Césarée. Et je termine par un tout dernier point, qui est vraiment une question. Je suis très très intéressé, très très passionné par au fond la thèse de fond que vous avez développée, enfin, la raison, hein, il y a un peu de suspense, on a eu la réponse, la raison pour laquelle les rabbis, les rabbins à la fin du 5e siècle, du 1er siècle, pardon, ont exclu les judéo-chrétiens. Et il disait donc que Jésus considérait finalement, ces rabbins juifs à la fin du 1er siècle ont voulu neutraliser l'idée messianique en tant que cette idée était porteuse de belligérance, de violence, compte tenu de ce qu'ils avaient eux-mêmes subi en 70 et en 73, Massada, vous avez évoqué. Alors, je trouve ça absolument passionnant. Ma question, c'est que l'image que donnent les évangiles, paradoxalement, c'est l'image de Jésus qui, lui, refuse la violence politique. En tout cas, il dit « ma royauté n'est pas de ce monde ». Il dit à Simon-Pierre, lorsque Pierre tire son épée, il dit « remets ton épée au fourreau ». Alors, ça voudrait dire, au fond, que ce sont les judéo-chrétiens qui ont été soupçonnés d'être séditieux, mais que selon les évangiles, Jésus lui-même ne l'était pas, ne voulait pas l'être, qu'il prêchait plutôt une sorte de non-violence. Et si c'est le cas, ça veut dire qu'il y aurait eu une sorte de malentendu de la part des juifs et des chrétiens par rapport à Jésus. Je ne sais pas si ma question est très claire, mais voilà, c'est un peu ce que je voulais relancer, au moins pour ouvrir l'échange. Merci beaucoup, en tout cas, c'était absolument passionnant.
Merci à vous. Merci à vous. Oui, je réponds rapidement.
Oui.
D'accord, quelques éléments de réponse. Je commencerai par la fin. Parce que c'est le plus frais dans mon esprit. Il me semble qu'il y a, mais bon, ce sont des choses que vous savez bien, une différence à faire entre le Jésus de l'histoire, dont on sait extrêmement peu de choses, finalement, bien qu'il y ait différents groupes de chercheurs plus ou moins sérieux et plus ou moins fantaisistes qui s'attachent eh bien, à retrouver les logion, les paroles authentiques de Jésus, mais on sait extrêmement peu de choses, finalement, du personnage Jésus de Nazareth et de l'histoire. Ce que l'on sait, c'est... alors, on a différents critères pour savoir si, effectivement, un propos est authentique ou ne l'est pas, ou dont on suppose qu'il ait pu l'être. Mais ce que l'on sait, en tout cas, de façon plus certaine, c'est ce que nous disent les évangélistes. Ce que nous dit Matthieu, ce que nous dit Marc, ce que nous dit Jean, etc. Et on sait quand ces gens-là ont vécu. Alors, on n'est pas toujours d'accord pour savoir où ces textes ont été écrits, bien que ce soit... ont été écrits, excusez-moi, bien que ce soit aujourd'hui, il y a quand même certains consensus, et à part certains auteurs qui sont des auteurs qui considèrent que Jean serait un évangile très ancien, comme l'a fait Claude Trémontant et d'autres dernièrement, où ça n'est pas aujourd'hui acquis, hein, ça n'est pas ça n'est pas consensuel, on sait que ces textes véhiculent le regard qu'entretiennent ces gens qui ont écrit ces évangiles, Matthieu, Marc, Luc, etc., le regard qu'ils entretiennent sur leur communauté. Et qu'ainsi, comme je l'ai dit tout à l'heure, Matthieu 23 est à lire comme le traumatisme de l'expulsion des judéo-chrétiens de la synagogue et les fameuses invectives contre les scribes et les pharisiens qui seraient la réaction de Matthieu qui s'en trouve eh bien malmené par les rabbis qui entendent prendre le pouvoir. Autrement dit, ce que je dis là, c'est qu'il y a une certaine porosité, il y a une certaine fluidité entre le personnage de Jésus qui appelle à la paix, et qui, à mon sens d'ailleurs, n'appelle pas toujours à la paix, qui a aussi des propos qui sont des propos parfois assez véhéments, et des propos, Matthieu 15 par exemple, mais d'autres, à l'égard des païens, qui sont des propos souvent de l'ordre de l'acrimonie, eh bien, il y a ici le regard qu'entretenaient les évangélistes, davantage que celui qu'aurait pu être le regard du Jésus de l'histoire. Et je veux vous dire quelque chose d'assez peu connu. J'ai écrit, mais Peter Schaeffer l'a fait avant moi, que certains textes du Talmud témoignent d'un regret des rabbis du fait de l'expulsion des judéo-chrétiens des synagogues. Autrement dit, nous avons expulsé nos frères, nous avons été empressés, et aujourd'hui, nous nous heurtons à un christianisme qui est un christianisme qui, de religion persécutrice, est devenu une religion persécutrice, et c'est nous qui en sommes les auteurs. Nous les avons expulsés à la fin du 1er siècle. Il y a comme, si vous voulez, un mea culpa qui est fait dans le Talmud, de façon souvent allusive, mais qui nous montre bien que, finalement, c'est nous qui avons, entre guillemets, et Boyarine le dira en ces termes, c'est nous, les rabbis, qui avons permis l'émergence du christianisme. En détachant, finalement, de nous, ces gens qui étaient nos frères, d'autres juifs, à cause de leur considération messianique. Et non pas à cause de leur doctrine religieuse. Ils n'étaient en rien des blasphémateurs. Voilà pour le premier point. Alors, le quatrième point qui m'intéresse particulièrement, Justin de Néapolis, oui, j'ai le texte là d'ailleurs, là, dans mes dossiers, dans mes notes, Justin de Néapolis, qui est le premier livre conservé de dialogue et non pas de polémique, et vous avez raison, entre un juif et un chrétien, on ne sait pas si c'est réel ou fictif, toujours ou partiellement fictif. En tout cas, dans le chapitre 47, Justin nous dit que les judéo-chrétiens sont encore admis dans l'Alliance, bien qu'ils pratiquent les observances, à condition qu'ils ne convainquent pas les pagano-chrétiens entrés dans l'Alliance d'en faire de même. Et ça, c'est une occurrence très importante. C'est le dernier auteur chrétien à le dire. Je répète, Justin de Néapolis nous dit dans les années 150-160, il vit donc en Palestine romaine, il dit, les judéo-chrétiens, eh bien, nous les admettons. C'est pas qu'ils ne sont rien. Non, non, absolument pas. Ce sont nos frères. Bien qu'ils sont quarto-décimants, qu'ils célèbrent la Pâque, le 14 Nissan comme les juifs, bien qu'ils s'évertuent à célébrer le Shabbat et pas le dimanche, ou le Shabbat et le dimanche, bien qu'ils s'évertuent à pratiquer la circoncision, etc. Ça, c'est très intéressant, ça. Hein? Très, très intéressant. Concernant Boyarine, je pense que l'idée, vous ne connaissez peut-être pas, donc je vais très vite, quand il nous dit que le concile de Nicée est une... l'assemblée de Yavne est une invention, est un mythe, et qu'en fait tout ceci, en se fondant sur les textes d'Athanase d'Alexandrie, le concile de Nicée, toute cette orthodoxie aurait été structurée à partir du 4e siècle. Non, je ne pense pas. Je pense que nous avons des textes de la Tosefta, qui sont des textes anciens, je ne parle pas du Talmud de Babylone, des textes de la Tosefta qui ne cite d'ailleurs pas, mais qui nous montrent bien que Yavne, c'est le 2e siècle. Concernant la Galilée, ah oui, vous avez raison, on a une fragmentation juive, païenne en Galilée. On sait que la Galilée, certaines villes de Galilée se sont rendues aux Romains, par exemple, comme Séphoris. Donc on sait que Flavius Joseph était lui-même galiléen, enfin il a servi en Galilée et il s'est rendu aux Romains. On sait qu'on a une culture totalement pluraliste, on pourrait dire aujourd'hui. Et on sait que le langage de Jésus, et ça je l'ai lu chez Marguerat, Jésus est un juif qui travaille la terre. C'est quelqu'un qui est proche du monde de la ruralité. On sent vraiment une empreinte galiléenne ici quand il arrive à Jérusalem et qu'il ne comprend pas ce qui se passe à Jérusalem, d'où sa réaction. Quand il veut émettre un enseignement, quand il construit une parabole, c'est souvent au monde qui est le sien qu'il emprunte ses motifs. Que ce soit les pêcheurs, que ce soit le lac de Tibériade, que ce soit les arbres fruitiers, la culture, l'agriculture. Donc on sent vraiment quelqu'un qui a grandi dans ces plaines galiléennes dont parle Klausner, et quelqu'un qui est profondément influencé par le monde qui est le sien. Alors, il y a d'autres thèses que vous connaissez certainement, de Richard Horsley, qui nous montre qu'il y avait des bandits, des listailles en Galilée, etc. Est-ce que Jésus aurait voulu s'en défaire? Aurait-il quitté la Galilée à cause de tout cela? Tout ceci est compliqué, mais en tout cas, l'identité galiléenne de Jésus est très importante pour comprendre son geste à Jérusalem et son regard sur le temple. Ce n'est pas le temple qu'il condamne, mais c'est la direction du temple, la direction politique qu'il condamne.
Merci.
Merci à vous. Merci à vous.
C'était qui le rabbin qui fait mine d'oublier la 19e bénédiction?
Alors c'est Shmuel Akatan, Samuel le Petit, et c'est dans le traité de Brachot, des bénédictions, page 28. Mais si vous voulez, j'ai le texte ici, vous pourrez le prendre en photo si vous voulez. C'est lui qui fait mine. Fascinant ce texte, hein. Alors on nous dit dans le Talmud qu'il réfléchit pendant 2 ou 3 heures. Vous imaginez un rabbin qui sur l'estrade, qui réfléchit, tiens, je ne me rappelle plus, qu'est-ce que j'ai écrit l'année dernière. Il passe 2 heures, 3 heures, les gens attendent. Et puis ça ne vient pas. C'est ça que nous dit le Talmud. Et là on se dit, mais attention, il est passé dans l'autre camp. Okay, et on est à la fin du 1er siècle. Imaginez-vous. Et encore une fois, c'est important que vous me posiez cette question parce qu'on est dans le Sanhédrin, l'instance la plus haute. Qui est vraiment l'instance rabbinique la plus élevée, quoi, la plus représentative de l'époque. Je ne parle pas du juif galiléen qui cultive sa terre et qui est illettré. Je parle, voilà, on est un disciple de Gamliel II, qui est peut-être judéo-chrétien. Et alors, on peut se poser une autre question, madame, en amont, qui est pourquoi, une question qui me fascine, pourquoi ce texte a-t-il été introduit dans le Talmud? Est-ce que les rabbis ne se tirent pas, enfin les rédacteurs plus tardifs, ne se tirent pas un peu une balle dans le pied en introduisant ce texte? Pourquoi l'avoir introduit dans le corpus talmudique? Ça aussi, c'est une question. On aurait pu... le Talmud a été écrit par des hommes, par différentes mains, au fil de l'histoire, n'est-ce pas, le Talmud de Babylone, entre le 5e et le 7e et 8e siècle. Hein. Pourquoi n'a-t-on pas élagué ce texte? Pourquoi l'a-t-on introduit? C'est une question, ça.
Vous avez dit que Jésus était pharisien, quelle était l'originalité de sa pensée au sein de ce mouvement, en
fait? Je pense que Jésus était un pharisien de Galilée, absolument. C'est quelqu'un qui est un pharisien de Galilée et qui condamne d'autres pharisiens. Je pense que Jésus considérait les rudiments de la loi orale qui était en train d'être forgée et expliquée et surtout diffusée à l'époque, qui plus tard eh bien, seront retranscrits dans le Talmud. Je pense que Jésus, je ne vais pas le dire trop rapidement, mais vraiment pour le dire sur un pied, très rapidement, je pense que Jésus condamnait ses enseignements parce qu'il considérait qu'ils étaient pour certains une forme d'usurpation, et que les rabbis s'octroyaient, en tout cas les pharisiens de Jérusalem, un pouvoir interprétatif en disant qu'il émanait du divin, ce pouvoir d'interpréter ces nouveaux décrets, et je pense que Jésus n'y adhérait absolument pas. Voilà. Alors, n'adhérait-il pas à tous ces enseignements, à une partie de ces enseignements? On pourrait rentrer dans le détail, hein, les ablutions avant, après le repas, le problème du Shabbat, les guérisons, etc. etc. Mais vous savez, ne serait-ce que Matthieu 12, J'ai cité dans le livre que vous citiez tout à l'heure un historien qui s'appelait... qui a écrit en hébreu... son nom m'échappe. Où il nous montre que Matthieu 12, en fait, avec le problème des épis arrachés, ne représente absolument pas une transgression du Shabbat à l'époque. Mais je vais vous donner un exemple, tiens, à propos des épis arrachés. Que dit Jésus? C'est fascinant ce texte. Hein. Les élèves, les disciples arrachent les épis. On ne sait pas si c'est, il faut voir en grec, hein, arraché, pas arraché, enfin en tout cas, ils froissent les épis et ils s'en nourrissent. Et là, les pharisiens lui disent, mais tes disciples font ce qui est interdit le jour du Shabbat là, avec les épis arrachés. Vous vous rappelez de ce texte? Et Jésus leur dit, mais non, les disciples du roi David ont fait la même chose. Alors, on ne sait pas de quel grand prêtre il s'agissait, parce qu'il y a une erreur dans le texte, il ne s'agit pas de Abiathar, mais enfin, peu importe. Et, ils ont consommé des pains de préposition, des pains qui étaient consacrés. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit là, Jésus? Il fait une analogie sémantique entre un passage de la Bible et la situation que lui-même vit avec ses disciples. Cette forme lier deux événements entre eux et de les mettre en synopse, entre guillemets, afin de pouvoir établir un enseignement nouveau, est une pratique que l'on connaît comme un outil interprétatif du monde pharisien de l'époque. Et c'est un exemple sur 1000. On pourrait dire la même chose de Paul, d'ailleurs, qui à mon sens était pharisien également. Enfin, il le dit lui-même, remarquez. dans l'épître aux Philippiens, au chapitre 3. Il le dit lui-même. Hein. Il est parisien, il le dit lui-même. Bon. Vous ai-je répondu ?
Non.
Bon. Madame ? Oui. Il y avait aussi le jeune homme là-bas.
Les judéo-chrétiens, qu'est-ce qu'ils sont devenus alors ? Est-ce qu'il y a conversé chez les chrétiens ?
Ah, c'est une bonne question, ça m'intéresse beaucoup comme question. Que sont-ils devenus ? Vous savez, je vais vous raconter une histoire. Personnelle. J'étais étudiant en Israël. J'ai fait une partie de mes études en Israël et une partie de mes études en France. Bon. Et donc j'étais étudiant tout jeune et étudiant en Israël. Mon père vient me voir, qui vit en France. Et bon, nous sommes juifs. Et mon père me dit, Dan, allons prier au mur. C'est-à-dire au mur à Jérusalem. Alors que vous connaissez l'histoire du juif qui prie des années et des années devant le mur de Lamentation et qui n'est pas exaucé. Et qui se retourne vers Dieu et qui dit, mais enfin, je prie des années, ça fait que je me penche, je prie devant ce mur et je... Pourquoi tu ne m'exauces pas ? Et le Dieu qui se retourne, qui dit, mais enfin, imbécile, tu vois pas que tu parlais à un mur. Bref, ce que je veux dire par là, c'est que je plaisante. Hein. Je ne veux choquer personne. Voilà que nous sommes sur l'esplanade du mur des Lamentations, du côté de la Maharavi, et du mur occidental. Et je vais vous raconter quelque chose de très intéressant que j'ai vécu. Enfin, de dramatique, mais d'intéressant en même temps, du point de vue anthropologique. Et je vois qu'il y a des émeutes comme ça, des gens qui se battent sur l'esplanade devant le mur. Alors bon, je m'approche, je cherche à comprendre et tout, et je me vois que c'est des grands chassidim, comme ça, des juifs très religieux, prennent quelqu'un, vous voyez, à bout de bras, et la barre de l'esplanade, et vraiment lui font passer le malfait. Et donc moi je vais vers lui, j'essaie de l'aider à se relever, et puis je vois un homme habillé comme un rabbin. Kippa, les franges rituelles, chemise blanche, enfin, genre, vraiment un échappé d'une académie talmudique, quoi. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui... En hébreu, je parle en hébreu, il me répond en hébreu, je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils t'ont fait ça? Et il me dit, écoute, voilà, j'ai distribué des flyers, des prospectus. Je lui dis, ah bon, lesquels? Il me dit, mais regarde, je lis le prospectus. Et là, il y avait écrit en hébreu, cher frère. Déjà, ça commence mal. Cher frère. Je vous invite, Shabbat, alors il y avait une date et tout, le nom de la section de la Torah qu'on lisait, à venir au sein de telle et telle, c'était la communauté d'Emmanuel, donc à côté de Jérusalem qui est la communauté judéo-chrétienne, afin de nous rassembler et de prier d'un même cœur, afin de recevoir notre Messie, celui qui est le rédempteur de l'humanité, Yeshua. Autrement dit, c'était un judéo-chrétien habillé comme un rabbin. Et c'est tout le problème de l'Antiquité, c'est qu'on ne savait pas identifier les judéo-chrétiens précisément. Maintenant, c'est très intéressant ça. Très intéressant ça, parce que cet homme-là, il savait très bien qu'il allait recevoir des coups en venant au Kotel, au mur des Lamentations. Il savait très bien que ça n'allait pas être admis, ces prospectus-là. Mais il l'a fait parce que, en fait, il s'est dit que s'il pouvait toutefois, eh bien, pouvoir attirer ne serait-ce que quelques personnes, ce serait sa daki. Étant convaincu de ses croyances, et de ce à quoi il adhère, il n'a pas hésité, ce qui montre d'ailleurs la présence judéo-chrétienne aujourd'hui au sein de l'État d'Israël contemporain. Mais je vous raconte cette anecdote pour vous dire combien ces gens ne sont pas identifiables et combien eh bien, ils sont convaincus de posséder le judaïsme vrai par excellence, un peu comme les Samaritains d'ailleurs. Que sont-ils devenus ? On retrouve des textes qui font référence aux judéo-chrétiens au Xe siècle en Syrie, notamment sous la plume de Agapeus de Hierapolis, c'était édité par le professeur Pinès, qui était un grand orientaliste, dont un de ses livres a été traduit en français, où on retrouve effectivement des judéo-chrétiens, alors c'est très intéressant, qui croient en Jésus seulement comme un prophète, et pas comme une divinité, et qui refusent la croyance en la conception et en la naissance virginale de Jésus, comme les judéo-chrétiens de l'Antiquité, et qui en plus, madame, et là c'est fascinant, célèbrent l'Eucharistie, mais non pas avec du vin, mais avec de l'eau. Pourquoi pas avec du vin ? Parce qu'ils ne croient pas en la sotériologie de Paul de Tarse. Ils ne croient pas en la christologie de Paul, qui considère Jésus comme un sacrifice, et dont le corps doit être, vous voyez, le corps comme un sacrifice animalier au sein du temple, etc., que l'on consomme. Ils n'adhèrent pas à cette croyance-là. Pour eux, Jésus est un prophète, un homme. Et ainsi, eh bien, ils refusent de consommer de la viande. Ils sont végétariens. Et pratique l'Eucharistie avec de l'eau. On a déjà ça chez les Ebionites dans l'Antiquité, qui font l'Eucharistie avec de l'eau. On a des textes, des pères de l'Église qui nous montrent, on a également un fragment d'évangile ebionite qui nous montre que l'Eucharistie était pratiquée avec de l'eau. Donc on les retrouve, ces judéo-chrétiens, jusqu'au Xe siècle. Ensuite on perd leurs traces, malheureusement. Oui, non, mais ce ne sont pas les mêmes. Ce sont pas les mêmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Non, non. Je l'ai dit trop vite. On a des dizaines de milliers de judéo-chrétiens aujourd'hui. J'étais une fois à un concert de Barbara Streisand à Tel Aviv, et j'ai une foule de judéo-chrétiens qui sont venus me donner des petits livres, Jésus est le Sauveur, etc. Il y avait même un comics, comment on dit en français ?
BD,
ouais. BD, ouais, avec un homme qui est malade et qui a une maladie qui va l'emporter, etc. Et l'autre dans le lit de l'hôpital qui lui dit « Mais non, mais il y a un sauveur dans ce monde, tu n'es pas seul, Jésus t'aime. » Et on distribue ça dans les concerts, je veux dire, les gens sont très actifs. Ce que je veux dire par là, c'est que ce ne sont pas les mêmes. Les judéo-chrétiens d'Antiquité sont des juifs qui considèrent Jésus comme étant une figure messianique, pour certains comme étant une figure divine, pour les Nazoréens. Ah oui, figure divine, attention, hein, pour les Nazoréens. Les Ébionites et les Alcazaïdes, c'est autre chose, qui sont souvent les Alcazaïdes proches d'ailleurs des Manichéens. Mais les judéo-chrétiens d'aujourd'hui ne se reconnaissent plus comme juifs ethniquement. Vous voyez, c'est la différence. Voilà. Maintenant, il y a différents judéo-chrétiens, les Jews for Jesus, et puis des Messianic Jews, etc. etc. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est l'apôtre Paul dans tout ça. Celui sur lequel va se fonder le christianisme, qui sera pour autant rejeté comme un schismatique dans les textes du IIe siècle, les textes judéo-chrétiens.
J'avais deux questions justement sur la séparation au sein du judaïsme que vous avez décrit. La première, c'est à propos de l'apôtre Paul, justement, vous l'avez conduit en disant oui, de toute façon, c'est un schismatique.
Pour les j'ai pas dit que moi je pensais que c'était un schismatique pour les judaïsmes.
Oui, pour les, non seulement pour les juifs rabbiniques, mais aussi pour les judéo-chrétiens, c'est un schismatique.
Oui,
c'est vrai. Et pourtant, ils fondent des églises et il y a des pagano-chrétiens des premiers siècles. Enfin, les épîtres de Paul, elles parlent quand même à des gens. En la messianité, en la divinité de Jésus,
oui.
Déjà au premier siècle.
Oui, c'est vrai.
Donc,
D'ailleurs, le discours diffère, excusez-moi de vous interrompre, mais c'est une question très intéressante. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez, monsieur le professeur. À qui s'adresse Paul ? Est-ce qu'il s'adresse ? Il s'adresse à des juifs, c'est évident. Il les appelle à Delphone, ce sont des frères, etc. Mais il s'adresse également à des païens. Mais pas à des païens qui sont des païens polythéistes. Quand il essaie dans les Actes des Apôtres, au chapitre 17, Athènes, à l'aéroport, ça lui réussit pas trop, on se moque de lui, vous rappelez. Il s'adresse à des craignants Dieu, à des théosobeston théon, des craignants Dieu, hein, en grec, c'est-à-dire des gens qui sont à la périphérie entre paganisme et judaïsme, des gens qui sont proches du judaïsme. Et proches, Paul s'adresse à eux du fait de leur proximité avec le judaïsme, du fait qu'ils croient dans le monothéisme et du fait qu'ils fréquentent les synagogues, ces gens-là. Donc ces gens-là, le discours de Paul est audible, vous voyez. Maintenant, dans les épîtres authentiques de Paul, 7, il y en a 7 d'épîtres authentiques, effectivement, quand vous me dites qu'il fonde les églises, écoutez, quand il meurt à Rome, comme le dit Étienne Trocmé, il est assisté par personne. Et oui, personne ne vient lui porter secours et assistance. Ce que je veux dire par là, c'est que Paul est un idéologue infatigable, qui sera réhabilité historiquement parlant, je ne parle pas du discours de la foi, attention, comprenez-moi bien, depuis tout à l'heure, je ne parle que du discours scientifique, historique. Chacun a sa foi et je la respecte, bien entendu. Comprenez bien, je parle du Paul de l'histoire, là. Donc, Paul de Tarse est celui qui va effectivement, entre guillemets, évangéliser, s'adresser à des gens, leur expliquant... Alors, là, c'est intéressant au niveau des modalités du discours. Quand il s'adresse à des juifs, il leur dit que les païens sont des pêcheurs, des pêcheurs. Ah, il le dit clairement, hein, les païens sont des pêcheurs. Ah, les païens, ils pêchent et tout. Quand il s'adresse à des païens, par exemple dans la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, versets 15 et 16, là il dit, ah mais non, mais les juifs sont ennemis de Dieu, de tout ce qui est beau et nous empêchent de s'adresser aux païens, vous voyez. Donc il le dit dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 9, il le dit, j'emploie le langage des Hébreux pour parler à des juifs et j'emploie le langage des Romains pour parler à des païens. Autrement dit, c'est quelqu'un qui cherche à, il est profondément convaincu que le Messie est venu. D'ailleurs, il dit qu'une seule fois que Jésus est Dieu, en Romains 9, 5. Sinon, pour lui, c'est le Messie. Bon, c'est Christos. Maintenant, la dialectique qui s'opère chez Paul, à mon sens, et ça, je l'empruntais à Taubes, par exemple, c'est entre Christos et Nomos. Ça, c'est très intéressant, vous voyez, monsieur. C'est-à-dire que pour Paul, le Messie est arrivé et supplante la Torah. La loi n'a plus lieu d'être, puisque le Messie est là. Et oui. Le Messie vient et remet en question la loi. Nous n'avons plus besoin de suivre les prescriptions bibliques, comme Genèse 17 avec le rite de la circoncision. C'est ça que pense Paul. Mais d'où le tire-t-il, ça? Il ne l'a pas inventé. Ça apparaît dans des textes, ça. peu, mais ça apparaît dans des textes juifs. Ils sont ou contemporains ou plus tardifs. Mais comme on sait qu'il y a une tradition d'oralité, hein, on sait que c'est très ancien, ça s'était transmis oralement, donc effectivement, c'est ça le problème, de, je crois, hein, la dialectique entre la loi et le Messie. Voilà, mais vous aviez une autre question.
Oui, enfin, c'est un peu dans le prolongement de ce que vous dites, mais par rapport à Paul qui meurt en 65 ou 67, on a l'impression que sous sa plume, la séparation, elle est déjà consommée.
Ah oui, c'est ça. Vous avez raison, mais je ne pense pas du tout que ce soit le cas. Je pense que Paul reste juif. Alors, je sais que ça ferait frémir bien beaucoup de mes co-religionnaires de dire ça, mais je pense, moi, que la New Perspective, depuis les années 90, hein, on a recontextualisé Paul dans le monde juif depuis Sanders. Oui, Paul n'a pas signé à c'était le premier en 77. Bien sûr. Mais après, il y a des travaux, Marc Nanos, et puis beaucoup d'autres, le livre de Boyarin, Saint-Paul, comment il l'appelle, Marginal. Bref, donc oui, Paul est à comprendre dans le judaïsme. Alors, c'est une autre question, ça, que vous me posez là. Monsieur, dans le sens où Paul est le produit d'un judaïsme de l'époque du 1er siècle, qui est un judaïsme totalement, comment pourrais-je dire en français, hétérogène. Vous voyez, vraiment hétérogène. Les gens n'avaient rien à se dire les uns avec les autres. Je ne sais pas si aujourd'hui ils ont plus à se dire, mais en tout cas... Et puis en dehors de tout ça, vous savez, entre les pharisiens, les esséniens, les apocalypticiens, les messianisants, les zélotes, les sicaires et tous ces gens-là, pas oublier qu'il y avait une grande partie des juifs de l'époque qui voulaient une chose, c'était de labourer leur terre, qui vivaient en Judée ou en Galilée, nourrir leur famille, et qui étaient très loin des querelles politico-religieuses qui se tramaient à Jérusalem ou ailleurs. Autrement dit, Paul est un personnage fascinant pour, à mon avis, une raison, c'est que c'est le dépositaire d'une double culture. Une culture hellénistique. Tars est une ville, j'ai dernièrement écrit ça dans le monde de la Bible, est une ville cosmopolite, une ville de forte influence stoïcienne en termes de philosophie. Il grandit à Tars. Et en même temps, il étudie avec Gamaliel Ier, vraisemblablement, en tout cas, il maîtrise parfaitement les règles interprétatives pharisiennes. Alors, ça, c'est beaucoup plus que Jésus, d'ailleurs. Il est vraiment un intellectuel, Paul. Jésus, ça n'est pas le cas. Jésus est un homme de la terre. Mais Paul est un grand intellectuel, hein, au sens historique du terme, j'entends, hein, historiquement parlant. Paul est un grand intellectuel. Quand vous lisez Romains 9 à 11, vous mettez en parallèle Deutéronome chapitre 30, etc. La loi n'est pas dans les cieux, elle n'est pas au-delà des mers. Il y a des règles interprétatives vraiment qui l'empruntent au pharisaïsme. Et en même temps, des concepts qui sont des concepts grecs. La matière, l'esprit, toute cette dialectique entre la binarité des termes, etc. Donc je pense que Paul est celui qui va ouvrir la notion d'alliance aux craignants de Dieu, aux païens. Et en cela, il va créer une forme d'universalisme, mais qui s'inscrit aussi dans le monde juif de l'époque. Historiquement parlant, j'entends.
J'ai une question, enfin, je ne sais pas si on a bien compris tout ce que vous avez dit.
Pardon,
je ne suis pas sûr d'avoir bien compris ce que vous avez dit, donc je vous demander, est-ce qu'on peut dire que l'enseignement de Jésus, il n'y avait rien de radicalement choquant, nouveau, par rapport à tout ce qu'on trouvait dans les textes de la Bible antérieure, Torah, etc.
Alors, ça, je vais vous répondre, et là, c'est peut-être une des seules questions où je peux répondre de façon catégorique. Pourtant, Dieu sait que c'est une époque difficile et qu'il faut connaître énormément de textes et énormément de langues pour l'appréhender, cette époque-là. Mais si vous me demandez si, à mon sens, hein, et de tout ce que j'ai pu lire ou écrire, Jésus est perçu comme quelqu'un qui énonce un enseignement qui soit blasphématoire ou marginal ou contraire à ce que l'on sait du monde juif de l'époque, notamment de la fin de l'époque du Second Temple avec la littérature intertestamentaire, etc., je pense que l'on peut répondre sans l'ombre d'un doute, non.
Est-ce que on pourrait...
Il n'y a rien qui soit problématique dans l'enseignement de Jésus.
C'était sur la nouveauté, la question.
Pardon ?
C'était sur la nouveauté, plus que sur le caractère problématique, j'ai l'impression, la question.
Est-ce qu'il y a quelque chose ? Oui, pardon.
Sur ce plan, justement, est-ce qu'on pourrait dire, par contre, que la pratique de Jésus était quand même très, très déconcertante dans le contexte de l'époque, le fait qu'il aille manger avec les publicains, qu'il accueille à sa table ?
Ça dépend pour qui. Ouais. Ça dépend pour qui. Oui, pour ce que va devenir le judaïsme dans le Talmud avec les pharisiens qui sont les pharisiens les plus invétérés de l'époque, ça peut poser problème. Mais on s'aperçoit que le partage de la table avec des païens apparaît dans d'autres textes, bien entendu. Maintenant, je vais vous dire, est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau moi, le seul texte que je trouve problématique, nouveau, c'est Matthieu 8:8. Laissant les morts enterrer leurs morts. Ça, je le trouve nulle part ailleurs. Parce que le problème d'enterrer le défunt est un problème vraiment... J'ai parlé avec Marguerat une fois, il me disait que c'était vraiment une zone d'ombre, je pense qu'il a raison. Là, je ne trouve rien de parallèle. Sinon, je ne vois rien de nouveau, non.
Le fait d'associer les deux commandements, amour de Dieu, amour du prochain, pris dans deux passages.
On le trouve déjà chez Rabbi Akiva. On le trouve déjà chez Rabbi Akiva. Non, ce que je voulais vous dire, par contre, c'était... qu'est-ce que je voulais vous dire je pense qu'il y a chez Paul des éléments qui sont novateurs. Je pense qu'il y a chez Paul des éléments novateurs, mais pas chez Jésus. Je pense pas que Jésus ait été un grand lettré, vous savez. C'est un homme charismatique, un homme profondément authentique.
Vous connaissez, enfin, il y a un livre qui vient de sortir, ça s'appelle Jésus et les historiens.
Ah oui, de Pierluigi Piovanelli.
Oui. Qu'est-ce que vous pensez de ça, enfin, il évoque une thèse...
Alors, il dit qu'effectivement, on trouve des éléments qui se rapprochent au mysticisme de la Merkava, et notamment de la littérature des palais, effectivement, dans l'enseignement qui est celui des évangiles. Je pense qu'il a tout à fait raison, Pierre-Luc Vivanelli. S'il y a vraiment quelqu'un aujourd'hui qui était une grande autorité sur ces questions-là, en France et pas seulement en France, Pierre-Luc Vivanelli, qui est un ami, un collègue, est une référence. C'est un grand spécialiste des apocryphes. Vraiment un très bon livre, il m'a envoyé et je m'en suis délecté.
Oui, mais au-delà de ce que dit Jésus et qui peut-être n'est pas choquant pour les juifs de l'époque, est-ce que le fait que les chrétiens se mettent à croire en sa résurrection, ça ne devient pas une forme de moment un peu irréconciliable, enfin,
la résurrection ? Mais pourquoi ? En quoi c'est problématique de croire que quelqu'un est ressuscité? Ça apparaît déjà dans les deux livres des Maccabées. Mais ça apparaît déjà dans les textes juifs des livres des Maccabées, mademoiselle, au deuxième siècle avant l'ère chrétienne. Livre des Maccabées, rappelez-vous, les enfants avec la maman qui, eh bien, ses sept enfants sont massacrés par Antiochus Épiphane, et que les enfants disent, aujourd'hui c'est toi qui nous maltraites et tu nous martyrises en nous persécutant, mais un jour nous nous réveillerons, Dieu nous fera renaître des morts et se vengera notre sang. Deuxième siècle avant l'ère chrétienne, la résurrection elle apparaît déjà.
Est-ce que vous voulez dire, c'est peut-être le fait que Jésus lui-même soit perçu comme... soit... reconnu comme par les communautés chrétiennes comme ressuscité, c'est peut-être ça qui est...
On se met à croire en la résurrection de Jésus et derrière lui la résurrection de tous les morts. Donc, enfin, je ne sais pas, mais est-ce que c'est pour les juifs...
Écoutez, les juifs rabbiniques ont écrit la prière. D'accord ? On considère qu'elle a été rédigée, qu'en tout cas les fondements de la prière, le Shmona Esrei, qui est la prière la plus importante pour le monde juif, eh bien, a été rédigée autour de l'époque de Yavné, c'est-à-dire entre 70 et 135. La troisième bénédiction de cette prière, c'est « Baruch ata Adonai mechaye ametim »« Béni sois-tu Seigneur qui ressuscite les morts » mot à mot, « mechaye ametim » Il n'y a absolument rien de choquant là. Jésus a ressuscité, parfait. Ça ne choque personne.
Donc la seule chose qui les a dérangés, c'est la portée politique de son message.
Absolument, j'en suis convaincu.
Mais, en revanche, c'est pas d'une certaine manière la fin d'un monothéisme, le christianisme.
Parce que... Pas chez Jésus. Chez les pagano-chrétiens, beaucoup plus tardivement.
Jusqu'à Arius, ça a empoisonné tout
le monde chrétien.
Le monde chrétien.
Bah oui, parce qu'il y avait différentes sectes qui étaient liées à la christologie, de savoir comment comprendre le personnage de Jésus. À savoir, est-ce qu'il était né comme Dieu, est-ce qu'il a été adopté, les adoptionnistes, adopté comme une divinité, est-ce que c'est au moment du baptême, au moment de la résurrection, les ancratites, les modalistes, les... Absolument, je suis d'accord avec vous. Mais ça, on ne parle pas du monde juif, là, on parle du monde chrétien intramuros. Dans le monde juif, il est considéré comme un rabbi, Jésus. Et ce n'est certainement pas la résurrection qui va poser problème aux juifs. Je pense que vraiment le problème est ailleurs. Enfin, je pense, beaucoup d'autres historiens le considèrent comme ça aussi. Son succès ?
Oui.
Avant la chute du temple, enfin avant dans les années 50.
Enfin, est-ce qu'il y a beaucoup de succès déjà ? Et pourquoi plus de succès qu'un autre rabbi ? Pourquoi ?
Je pense que voilà, vous posez deux bonnes questions et vous prolongez votre question avec un éclaircissement qui me paraît ici capital. A-t-il eu du succès ? Non, je ne plaisante pas, comme historien. Quel était le nombre de ses disciples?
70.
Pardon?
12 plus 70, enfin, dans les chiffres.
Ok, c'est pas beaucoup de monde ça. On nous parle, ben oui, on nous parle d'un, Flavius Joseph nous parle d'un prophète qui s'appelle Teudas, qui lui s'adresse à 400 personnes, leur explique eh bien qu'il est le Messie, et qu'il va les cheminer jusqu'au Jourdain, donc le fleuve, et que le Jourdain va s'ouvrir en deux, comme la mer Rouge. Le Jourdain ne s'ouvre pas, et les Romains massacrent tout le monde, 400 personnes. Là, vous me parlez de 12, 70 personnes. Donc, a-t-il eu du succès déjà, historiquement parlant? Qui se trouve à la croix quand il est crucifié? Avec des bandits de grand chemin, des agitateurs politiques, etc. D'ailleurs, la croix qui n'était pas un symbole religieux à l'époque, hein, c'était emporté un patibouloum, etc. Enfin bref. Donc, première question. Seconde question, à partir de quand va-t-on célébrer le personnage? Chez les juifs et chez les païens. Ça prendra du temps tout ça. Deuxièmement, troisième question que je pose, mais je ne veux surtout choquer personne, pourquoi va-t-on considérer qu'il a ressuscité? Je ne parle pas de la croyance, hein. On croit qu'il a ressuscité, et c'est tout à fait respectable. Mais d'un point de vue, comment dire ça, d'un point de vue de la psychologie des religions, pourquoi la résurrection apparaît après la crucifixion?
Parce que c'est un échec cuisant.
Ben oui. Ben oui. Complètement. C'est ce qu'on appelle la dissonance cognitive. C'est-à-dire que on ne peut admettre la réalité telle qu'elle est. Parce qu'elle vient heurter à tout ce que nous sommes. Donc nous inventons un mythe afin de prolonger notre croyance et de ne pas être démenti. Vous avez ça avec Sabbatai Tzvi, je vous donne un exemple. Sabbatai Tzvi était le messie des juifs qui venait de Turquie au XVIIe siècle. Il s'est prétendu comme étant le messie. Il y a des centaines de milliers de juifs qui l'ont suivi. Pas seulement en Turquie, d'où il venait, de Smyrne, mais jusqu'en Europe de l'Est. Pendant 2-3 siècles, des rabbins les plus éminents. Finalement, vous savez comment il a fini ses jours? Chez le sultan, à qui il a demandé eh bien, de lui affréter une flotte pour prendre tous les juifs du bassin méditerranéen, les emmener à Jérusalem afin de reconstruire le temple. Vous savez ce que lui a dit le sultan? Il a dit, écoute, c'est où la conversion à l'islam ou la mort? Il s'est converti à l'islam. Il s'est appelé Mehmet Effendi. Devenu musulman. Vous savez ce qu'ont dit les gens à l'époque? Ils n'ont pas arrêté de croire en Sabbatai Tzvi. Ils ont considéré qu'il fallait qu'il descende dans des niveaux d'impureté kabbalistique qui sont propres à la conversion à l'islam pour pouvoir mieux les sauver et les rédimer et les emmener à Jérusalem. Ce qu'on appelle la dissonance cognitive. Maintenant, comprenez-moi bien, je ne veux heurter personne. J'essaie juste de comprendre. A-t-il eu du succès? Combien avait-il de... Je pense que ce qui a... Et je vais vous étonner, hein, mais je pense que les premiers chrétiens ont eu du succès chez les juifs, notamment les juifs rabbiniques, à cause d'une chose, ou grâce à une chose peut-être. Et là, ce sont des choses sur lesquelles on écrit trop peu, je pense. Mais bon, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de sources. Les premiers chrétiens sont des thérapeutes. Ce sont des gens qui soignent au nom de Jésus. Et vous savez quoi? Les guérisons marchent. C'est-à-dire qu'on a des textes dans le Talmud où on a un enfant, par exemple, qui a avalé une épine et qui s'étouffe. Arrive un judéo-chrétien qui s'appelle, évidemment,
Jacob.
Bravo. Et Jacob vient et soigne cet enfant. L'enfant est en parfaite santé. Et le grand-père n'est pas content. Qu'est-ce que tu lui as dit, etc. Tu as enseigné un propos au nom de Jésus. Ah, j'aurais préféré que mon petit-fils meure. Mais que tu n'enseignes pas. Ouais, non, c'est très bien, mais on est au IIIe siècle. Bref. Et là, jamais le Talmud, mademoiselle, dans tous les textes que j'ai pu consulter, ne dit que les guérisons pratiquées par des judéo-chrétiens au nom de Jésus n'ont pas été efficaces. Je vous cite un texte qui apparaît au IIe siècle, très tôt, dans la Tosefta de Houlin, chapitre 2. On a un rabbin qui s'appelle Elazar ben Dama. Il est mordu par un serpent, ou piqué par un serpent, on doit dire. Bref, il va succomber. Arrive un judéo-chrétien qui s'appelle, et qui, au nom de Jésus, propose de soigner ce Elazar ben Dama, ce rabbin-là. Il n'a pas le temps de le soigner, l'autre succombe. Mais le rabbin était prêt à être soigné par lui, au nom de Jésus. Parce qu'il voulait vivre. Vous comprenez? Donc on a toute une tradition des judéo-chrétiens thérapeutes dont le Talmud ne nous dit, alors quand je parle du Talmud, c'est du 2e au 7e siècle, hein, c'est beaucoup de textes, que ça n'est pas marché. Donc je pense que ça a été, et ça je pense que c'est un problème pas religieux, mais social. Vous vous rappelez quand Jésus soigne par exemple l'aveugle né de Jean 9, ou dans Marc 8, etc. Souvent il dit aux gens qu'il a soigné, n'ébruitez pas ce que vous avez vécu. Et je pense que c'est ça le problème des rabbis. C'est que si des juifs qui ont été soignés par des judéo-chrétiens au nom de Jésus, eh bien vont ébruiter ce qui s'est passé, ben, ça va faire une forme d'engouement, de mimétisme social, et ainsi, eh bien, il va y avoir ce que les rabbis redoutent, à savoir une déperdition identitaire, et boum, ce qui s'est passé dans le monde romain, à savoir de nombreuses personnes qui vont adhérer au message de Jésus. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas un problème religieux. C'est la question que me posait monsieur. C'est un problème social, un problème lié politique, mais pas un problème religieux. Donc s'il y a quelque chose de nouveau au niveau de la religion juive, non. Enfin, je ne sais pas trop ce que c'est la religion.
Oui. Mais est-ce qu'il ne faut pas quand même prendre en compte ce qui est dit, je vais faire un ensemble d'historiens ou d'exégètes, qu'il y a beaucoup de choses qui sont attribuées après coup à Jésus par les évangélistes, mais qu'on peut tout de même attester aujourd'hui avec une forte probabilité l'authenticité historique d'un certain nombre de paroles, d'actions qui sont attribuées à Jésus. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut tout mettre au fond sur le compte de réécriture ?
Non, je l'ai dit. Nous avons des critères, vous le savez bien comme moi, des critères qui nous permettent de supposer effectivement que nous avons des propos authentiques, des logion, on a notamment des textes très anciens dont on peut supposer effectivement que Jésus les ait dit, ou qu'il était porteur de ses enseignements. J'y adhère pleinement. On a par exemple l'évangile selon Thomas, avec 114 logion, dont on sait qu'il se rapproche le plus de paroles authentiques que Jésus aurait pu prononcer. On a également la source Q, la source Ken, qui est une reconstitution historiographique où on a comparé les différents textes des synoptiques pour revenir à une antériorité, enfin, à une authenticité de texte de Jésus, la source Q. On a un livre de Frédéric Hansler en français, aux éditions Labor et Fides sur cette question-là. Petit livre très intéressant. Non, bien sûr, je suis d'accord. Je ne mets pas du tout... je ne fais pas la dissociation en disant « c'est seulement tardif ». Et non, je pense que Jésus a été un homme qui a dit des choses et dont il y a eu des témoignages oraux. Et je vais même vous dire davantage. J'ai écouté dernièrement une émission avec Michel Onfray, dont je pense d'ailleurs qu'il a beaucoup écrit, mais sur Jésus, ce ne sont pas ses ouvrages les plus réussis. Et encore, c'est un euphémisme. Il est intervenu avec un dominicain, dont j'ai oublié le nom. Et ce dominicain disait quelque chose de très vrai, c'est cet homme-là. Il disait, en fait, on remet en question l'existence de Jésus. Mais si on devait comparer d'autres grands personnages de l'histoire, par exemple Platon ou Aristote, les textes que nous avons concernant ces gens-là sont bien plus tardifs que les évangiles par rapport à Jésus. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc oui, bien sûr, je pense qu'il ne faut absolument pas considérer que beaucoup de gens, et je l'ai critiqué, ont considéré que les évangiles ne témoignaient pas d'historicité, qu'il n'y a rien d'historique. Je pense que c'est complètement faux, absolument. Il y a deux. On peut, vous savez, je vais même vous dire davantage. Aujourd'hui, d'un point de vue universitaire, aux États-Unis, en Israël, même en France, je crois, pour comprendre le monde juif de la fin de l'époque du Second Temple, pour comprendre le monde juif dans sa pluralité de la fin de l'époque du Second Temple, on se doit absolument d'étudier le grec du Nouveau Testament et le Nouveau Testament. Eh oui. Monsieur.
Oui, c'est une question qui peut peut-être pas être un peu périphérique, mais vous avez parlé de la rupture du pain pour le Shabbat et de l'influence chrétienne.
Ah oui.
J'avais une question sur le Seder, c'est un petit peu en lien.
Oui. Je vais vous dire, oui et non, parce que je vais vous dire, le problème est que le Seder apparaît la première fois dans la Mishnah de Psachim, et elle a été rédigée, cette Mishnah, donc c'est une première partie du Talmud, autour du deuxième siècle de l'ère chrétienne. Maintenant, quand ces gens vous répondent, ils vous disent en fait non, c'est plus tardif. Le problème c'est que c'est pas exact, dans le sens où on sait très bien qu'on a une tradition de l'oralité, pas seulement en monde juif, mais en monde sémitique. Aujourd'hui, on a des grands talmudistes, notamment des dames. C'est très intéressant parce que vous savez que les grandes talmudistes d'aujourd'hui sont américaines et ne sont pas juives. Très intéressant. Un phénomène très intéressant. Ces gens nous montrent en fait qu'on a des textes, grâce à Flavius Joseph et au Talmud, où on compare les textes entre eux et on en arrive en fait à des suppositions liées à une source antérieure qui remonterait à l'époque où le temple est encore existant, donc à l'époque de Jésus, et à l'ancienneté de ces traditions, bien qu'elles soient retranscrites plus tardivement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on peut tout à fait supposer, et je pense que ce serait exact de le faire, que le céder en tant que repas où on consomme l'agneau pascal dans le temple et plus tard la cérémonie du céder existait déjà à l'époque de Jésus. En revanche, ce qui n'existait pas, là par contre c'est évident, c'est la lecture de la Haggadah qui est plus tardive, le récit de la sortie d'Égypte, vous voyez, ça c'est plus tardif, et la symbolique de Pessah, ça c'est plus tardif. Mais l'idée de céder, de manger du pain azim, etc., ça apparaît déjà chez Flavius Joseph au 1er siècle, à l'époque de Jésus. Et oui, il faut pas, pour comprendre l'histoire, il ne faut pas seulement se baser sur les textes du Talmud, hein. Surtout que ce ne sont pas des textes historiques, enfin, on retirait un noyau d'historicité. Mais on a Flavius Joseph, on a Philon d'Alexandrie, tiens, qui lui aussi nous parle du céder. Et oui, enfin, je crois que c'est dans The Specialist Legitibus, dans les lois spéciales, il parle. Et là, on était au 1er siècle, à l'époque de Jésus, en Égypte.
Madame.
Et vous, personnellement, dans les récits qui semblent le plus authentiques, c'est quoi les passages, les punchlines qui vous touchent le plus?
Qui me touchent le plus?
Oui, qui vous interpellent.
Ah, moi, Jésus me fascine. Grand bonhomme. Je sais, ça fait 20 ans que je travaille sur ces questions-là, donc... il faudrait me psychanalyser, hein, pour savoir comment, en tant que juif, je suis tombé dedans. Quoi. Mais je pense que le Nouveau Testament est un texte absolument fascinant, qui m'aide à vivre. Jésus est un être très attachant. Quel texte, moi, me touche particulièrement? J'aime bien votre question, elle me fait plaisir. J'aime beaucoup le texte de Jean avec la Samaritaine. J'aime beaucoup le texte de Jean où avec la... C'est dans Jean 8. Jeter la première pierre avec la femme adultère. Très beau texte. J'aime beaucoup ce texte-là. J'aime beaucoup l'idée de dire que être fonctionnaire du culte, c'est pas ce qui plaît à Dieu, voyez, mais qu'en fait c'est un élan du cœur qui d'abord plaît à Dieu. Je retrouve ça chez les prophètes bibliques. Et je pense que Jésus de Nazareth s'inscrit dans cette lignée prophétique. Et je pense que c'est un problème parce qu'il ne sera pas admis en tant que tel, parce que les rabbis vont considérer que la prophétie s'est interrompue en Israël. Mais je pense que c'était un être authentique et en même temps profondément, j'ose pas dire pur, mais avec une grande âme. Voilà. Et donc oui, il y a des textes qui me touchent beaucoup. Ils me touchent beaucoup, bien sûr. Vous savez, c'est intéressant. Bon là, c'est moins personnel ce que je vais dire, mais les pharisiens qui sont vilipendés dans le Nouveau Testament, on croit souvent... Que les pharisiens sont célébrés dans le Talmud, parce que les rabbis descendent des pharisiens. En vérité, vous savez comment on en parle dans le traité de Sota, dans le Talmud et également dans la Tosefta, au deuxième siècle de l'ère chrétienne. On nous dit que les pharisiens sont des gens, en fait, à la fois absurdes, à la fois imbéciles. On dit qu'un pharisien, c'est... Alors que les pharisiens ont donné naissance aux rabbis, imaginez-vous, hein, de l'autocritique qui est faite. On dit qu'un pharisien, ça va vous rappeler les évangiles, est quelqu'un qui entend une femme se noyer dans l'eau, mais qu'il ne va pas la sauver de peur de la toucher. Un pharisien, quelqu'un qui marche avec la tête baissée pour ne pas regarder les dames et qui se prend un coup dans le premier poteau qu'il rencontre dans la rue, etc., etc. Il y a une critique acerbe contre les pharisiens qui rejoint un peu celle du pharisien hypocrite des évangiles quand on lit les textes. Donc, c'est-à-dire que... je pense qu'il y a une grande morale... Mais là, je vous parle de façon très personnelle, que le judaïsme n'a pas atteint, qu'on ne trouve pas dans le judaïsme. Le judaïsme est une religion de l'étude, du questionnement, de la controverse, de quelque chose d'infini, voyez, du point de vue de la question posée qui a beaucoup plus de sens et de force que la réponse. On ne croit pas dans la réponse, on croit dans la question. Mais je crois que Jésus est venu apporter un autre enseignement, qui n'était pas nouveau, mais qui l'a cristallisé d'une façon où ça n'a pas été fait avec une telle ampleur, avec une telle démarche, avec une telle voix auparavant dans le monde juif. Et moi, je fais partie des gens qui considèrent que Jésus devrait apparaître dans le Talmud comme un des grands rabbis de l'époque. Voilà, mais bon, si je dis ça, comprenez, dans certains cercles, je vais finir sur un bûcher inquisitorial.
Et c'est pour ça qu'on l'a appelé le Christ, parce qu'il a cristallisé.
Pas mal.
Écoutez, je pense qu'on va s'en tenir là. Vous avez eu le mot de la fin. Merci beaucoup.
C'est la jeune fille qui l'a eu, la demoiselle.
Merci beaucoup.
Merci à vous. Merci à vous.